Voilà, comme ça, ceux qui sont à distance ne verront pas les éléphants, eux, mais ils verront notre intervenant. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Pierre Molinier, je suis l'un des membres du département de patristique au Centre Sèvres. Nous sommes heureux donc d'accueillir tout le monde pour cette énième soirée qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les sources chrétiennes et le Centre Sèvres. Donc, c'est une soirée qui a lieu chaque année, qui permet à la fois de présenter les nouveautés de la collection. C'est ce qui aura lieu dans une deuxième partie de la soirée avec Guillaume Bardi et Laurence Mellerin. Mais à chaque fois, c'est aussi l'occasion de présenter plus particulièrement un volume. Et donc ce soir, c'est le volume sur les miracles de Saint-Martin de Grégoire de Tours. Et donc, Monsieur Michel-Yves Perrin a accepté de venir le présenter. Alors je dis quelques mots. Donc vous êtes spécialiste en histoire de l'Antiquité tardive et du christianisme ancien. Vous avez justement fait votre thèse sous la direction de Luce Pietri, qui nous écoute, sur le Christ des Romains, recherche sur l'image du Christ dans la Rome de l'Antiquité tardive. Et puis, voilà, vous avez enseigné l'histoire romaine pas mal d'années. Vous avez publié en 2017 « Civitas Confusionis », un ouvrage sur la participation des fidèles en controverse doctrinale dans l'Antiquité tardive. Et puis, en 2009, vous avez succédé à Martine Dulahaye à l'École des hautes études pour la direction d'études Histoire et doctrine du christianisme latin. Et c'est dans ce cadre que vous avez donné, et donné encore, je crois, un séminaire sur, justement, Grégoire de Tours et l'anthropologie religieuse. Donc, Michel-Yves Perrin, un très grand merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et donc, vous avez le temps qu'il faut, une petite heure, si vous le souhaitez, pour nous présenter ce volume et l'intérêt qu'il a.
Merci beaucoup. Donc, remercie vivement Pierre Molinier pour sa présentation et l'invitation. Et j'ajoute à ces remerciements, évidemment, les sources chrétiennes en la personne de Guillaume Bardi pour présenter un livre qui m'intéresse et mes proches à plusieurs titres. Le premier, vous l'avez à peine évoqué, c'est que l'auteur du volume Luce Pietri a guidé mes pas en histoire depuis ma maîtrise jusqu'à la thèse. Et donc, je suis heureux de la saluer ce soir. Le second, c'est que je peux continuer dans une veine autobiographique qui, avec Grégoire de Tours, est très naturelle, c'est que la première communication que j'ai faite dans un colloque portait précisément sur Grégoire de Tours, il y a 30 ans, un colloque à Tours, précisément, sur Grégoire, où je m'occupais de l'espace extra-gaulois chez Grégoire de Tours. Le volume, alors, je vous propose, pour cette présentation, disons de procéder de façon assez simple, de présenter d'abord les personnes du drame, puis une sorte de phénoménologie d'ouvrage, en entendant phénoménologie très loin de ces acceptions qui sont singulièrement philosophiques. Il ne s'agit ni de Hegel, ni de Husserl et de ses épigones, mais tout simplement de décrire ce qu'il en est. Et enfin de terminer par des considérations sur ce que ce texte apporte à la connaissance de l'anthropologie religieuse de la période dans laquelle il a été écrit. Mais avant, peut-être, dire quelques mots de qui a assuré la réalisation de ce volume, Luce Pietri, puisque Madame Pietri a passé sa vie, une bonne partie de sa vie, sur Grégoire de Tours et Tours. Elle est l'auteur d'un volume tout à fait essentiel sur la ville de Tours du 4e au 6e siècle, naissance d'une cité chrétienne, que vous pouvez lire tranquillement sur Internet gratuitement, puisque la collection de l'École française de Rome, et en particulier ce volume, est tout à fait disponible. Et elle a donné, pour ce qui concerne la Gaule chrétienne, beaucoup d'ouvrages essentiels. J'en citerai quelques-uns. D'abord, la prosopographie chrétienne du Bas-Empire, le volume dédié à la Gaule chrétienne, les deux gros volumes dédiés à la Gaule chrétienne. Avant, elle a participé à la topographie des cités chrétiennes de la Gaule et a été la curatrice de ce qui concernait le diocèse de Tours. Et puis, pour Grégoire de Tours plus particulièrement, je ne les ai pas amenés ici, mais avant même que Aux sources chrétiennes ne paraisse ce volume dédié au miracle de Saint-Martin, sont sortis aux belles lettres deux traductions commentées d'ouvrages de Grégoire, d'une part en 2016 La vie des pères et en 2020 La gloire des martyrs. C'est dire que c'est l'une des spécialistes les plus autorisées de cet auteur, de son objet et de l'espace principalement traversé par Grégoire, et je crois que le prix du volume, c'est non seulement d'offrir une traduction très précise, très fidèle, on peut toujours discuter sur tel ou tel point, mais c'est vraiment une traduction très, très exacte, très fidèle, pour un texte, pour un latin qui, comme ceux qui ont fréquenté Grégoire de Tours le savent, n'est pas toujours très simple à comprendre, à entendre, et d'autre part, c'est un ouvrage qui est muni d'un appareil de notes qui repose sur l'expérience et la connaissance extrêmement approfondie que l'Uspréhistoire possède et de l'univers de Martin de Tours et de celui de Grégoire de Tours. Et si l'on fait la comparaison, par exemple, avec une traduction italienne qui a été publiée il y a 3 ans chez l'éditeur Einaudi, on peut dire que ce volume de sources chrétiennes n'a rien à envier au volume italien par la grande qualité des notes. La traduction italienne ne figure pas dans l'apparat de la bibliographie, j'aurais pu y être, mais je dois dire que c'est un ouvrage qui servira sans doute de référence pour non seulement qui veut prendre connaissance du texte, mais aussi pour les spécialistes de la question. Alors ceci dit, donc Grégoire de Tours, les miracles de Saint-Martin. Beaucoup sans doute parmi vous connaissent Grégoire de Tours, en ont des souvenirs pour avoir lu quelque part qu'il avait été l'auteur d'une histoire des Francs. Alors disons tout de suite que le titre lui-même, Histoire des Francs, doit être corrigé. Ça fait presque un demi-siècle que les travaux de Pascal Bourguin ont montré qu'il ne s'agissait pas d'histoire des Francs, mais d'histoire tout court. Et que ce n'est que deux siècles plus tard que dans la transmission du texte, on a ajouté cette spécification des Francs qui a introduit une lecture biaisée de ce texte en faisant une de ces histoires nationales, comme on en a, l'histoire des Angles par Bête de Vénérable ou d'autres. Mais il s'agit d'histoire. Alors, qui est Grégoire en quelques mots? C'est un homme qui est issu d'une très importante famille gauloise qui appartient à l'aristocratie de la Gaule, au moins depuis le 5e siècle, et qui a trouvé, comme un certain nombre de membres de l'aristocratie à cette époque, à s'illustrer dans la carrière ecclésiastique. Et précisément, dans les histoires, Grégoire explique qu'il a une généalogie, si je puis dire, chrétienne, qui fait sa fierté. Il compte parmi ses parents proches des évêques de Lyon, source chrétienne, c'est essentiel, de Clermont, de Langres, et il se vante que tous les évêques de Tours, à l'exception de 5 d'entre eux, lui étaient apparentés. Et il dit avoir, au nombre de ses ancêtres, le martyr lyonnais Vétus à Pagatus, et Pagatus, qui était un compagnon de martyrs plus connus, à savoir Plotin et Blandine. Il a été élevé dans la vénération d'un saint qui aujourd'hui se trouve, si je ne me trompe, sur l'Allier, Julien de Brioude. Il a perdu à 10 ans son père et sa mère, qui se nomme Armentaria, l'a confié aux soins d'un oncle, Gallus, évêque de Clermont-Ferrand, et de son archidiacre, Avitus. Et désireux de devenir clerc, en tout cas souhaitant épouser la carrière cléricale, il est devenu diacre d'un évêque de Lyon qui s'appelle Nisier et qui a laissé, comme le savent les Lyonnais, un souvenir important dans la topographie lyonnaise. En 573, l'un des rois francs, je rappelle, mais je n'entre pas dans les détails, c'est inutile je crois ici, et ça serait trop fastidieux, la Gaule est divisée entre plusieurs royaumes francs dont les frontières varient, c'est extrêmement compliqué, c'est un casse-tête extrême. Enfin, le roi franc dont dépend Tours fait en sorte qu'il obtienne l'évêché de Tours, et donc en septembre 573, Grégoire devient évêque de Tours. Et il restera évêque de Tours jusqu'à sa mort, qui, selon une chronologie généralement reçue, intervient en novembre 594. Donc il est évêque, vous le voyez, plus d'une vingtaine d'années. Et Grégoire, outre ses charges d'évêque, situé dans une ville qui est essentielle, ne serait-ce que du point de vue géographique, puisque Tours, vous le savez, est sur la Loire, sur la rive sud de la Loire, et que donc c'est un lieu de passage entre, par exemple, les ambassades qui viennent de la péninsule ibérique et qui se rendent aux cours franques du centre et de l'est de la Gaule. Donc il voit passer beaucoup de monde, et l'intervention que j'avais faite à Tours il y a 30 ans était précisément consacrée au fait que Grégoire, ce qu'on sait peu, Grégoire est connu, ou en tous les cas présenté comme l'homme qui a illustré la Gaule chrétienne, mais il est surtout parmi ses contemporains celui, l'auteur, qui parle le plus de ce qui n'est pas son espace de vie quotidienne. C'est lui qui... On n'a aucun autre auteur, aussi bien en latin qu'en grec, qui à la même époque ne s'intéresse autant à ce qui se passe au loin, très au loin. Et donc il fournit des informations très, très abondantes, et il les a visiblement recueillies en grande partie par les personnes qui sont passées à Tours. Et il a écrit. Il a écrit beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup qui s'est conservé. Il a écrit, il le dit lui-même d'ailleurs à la fin de sa vie, où il met un peu d'ordre en 594 dans ce qu'il a écrit. Il a écrit d'une part les histoires en 10 livres, et puis d'autre part, il a écrit 8 livres de miracles, dont 4 livres consacrés à au saint principal de sa ville, c'est-à-dire Martin. Et il a écrit aussi d'autres choses, il a adapté La Passion d'André, etc. Mais grosso modo, le gros de sa production littéraire, ce sont ces deux massifs. Les histoires d'un côté, qui encore une fois n'est pas une histoire nationale. On a pu montrer, ça a été le cas d'un collègue allemand, Martin Heinzelmann, qu'il y avait toute une visée doctrinale qui aimantait les histoires, mais et qui... Il fallait lire les histoires en fonction de cette clé théologique et spirituelle. Et puis, d'autre part, il y a cet énorme massif hagiographique. Et c'est donc un morceau, une bonne moitié du massif hagiographique qui nous réunit ce soir. Alors, le massif hagiographique, je l'ai à peine dit, est consacré à Martin de Tours. Juste quelques mots, la plupart d'entre vous connaissent sans doute Martin de Tours. C'est quelqu'un qui est né dans la Hongrie actuelle, à Savaria, et à une date qui est controversée, soit dans les années 316, vers 316-317, soit 20 ans plus tard, peu importe, qui a fait une carrière de soldat, qui a été élevé d'ailleurs d'abord en Italie du Nord, hein, donc même si aujourd'hui les collègues hongrois sont très fiers de Martin, et s'il y a une Via Martini, parce que j'ai vu... cours de Tours jusqu'au fin fond de la Hongrie, il est peu hongrois, c'est un homme qui a vécu d'abord dans le nord-est de l'Italie, qui en 356, sur le Rhin près de Worms, décide d'abandonner ses fonctions de militaire et s'en va ensuite à Poitiers auprès de l'évêque Hilaire, fameux, qui en fait un exorciste. C'est-à-dire un clerc de peu de relief, puisque les exorcistes à l'époque, aujourd'hui, je crois qu'un exorciste, en tout cas dans l'Église romaine, sont des clercs expérimentés. Dans l'Antiquité, c'est tout le contraire. Il suffit de faire des signes de croix, et en général, ça suffit pour se débarrasser du diable. Ensuite, il part un peu en Illyrie, où il lutte contre les adversaires doctrinaux d'Hilaire, à savoir les adversaires du Concile de Nicée, ce qu'on appelle vulgairement les Ariens. Et puis, il revient vers la Gaule, en s'arrêtant d'abord dans le golfe de Gênes, sur une petite île qui se trouve au large de cette ville qui s'appelle Albenga, qui est à peu près à mi-chemin entre Gênes et la frontière française, et qu'on voit très bien depuis Albenga. Il n'y a aucun reste archéologique véritablement assignable à l'époque de Martin. Et ensuite, il revient en Touraine, ou plus exactement près de Poitiers, et établit un monastère à Ligugé. Et comme vous le savez sans doute, il existe toujours un monastère qui ne conserve pas grand-chose de traces archéologiques de la présence de Martin. Et donc ensuite, il est élu évêque de Tours au début des années 370 et il meurt en novembre 397. Il meurt à Candes, aujourd'hui Candes de Saint-Martin. Au XXe siècle, on a changé le nom de la ville, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tours, à la confluence entre la Loire et la Vienne. Et si vous allez à Candes, vous avez une magnifique église médiévale. J'aurais aimé vous montrer des photos, mais je n'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint et je vous prie de m'en excuser. Vous verrez que dans l'église de Candes, dans l'abside gauche, celle qui est vers le fleuve, est située, on situe l'endroit où Martin serait mort. Et puis, le corps de Martin est disputé et finalement, il arrive à Tours et la déposition de Martin intervient le 11 novembre. Et c'est cette date du 11 novembre qui est celle de une des deux dates où l'on fête Martin. Alors, ce qui est étonnant avec cet évêque, qui est, vous le savez sans doute, un évêque un peu singulier, puisque son premier biographe, Sulpice Sévère, je vais y venir, le décrit comme un trublion dans l'épiscopat gaulois de l'époque, puisqu'il refuse d'avoir un trône comme ont un évêque, mais il prend un tabouret en bois, il est donc, nous dit-on, très mal vu, et d'ailleurs, Spietri l'a montré, après sa mort, pendant un certain nombre de décennies, on essaie d'oublier un peu Martin. Mais Martin a une chance extraordinaire, s'il n'avait pas eu cette chance, sans doute on n'en parlerait pas aujourd'hui ou très peu, c'est qu'il a un biographe. Il a un biographe de son vivant qui s'appelle Sulpice Sévère, qui est un très riche propriétaire aquitain, et qui, en 396, 397, donc à peine un an avant la mort de Martin, écrit une vie de Martin de Tours, une vie de Martin qui a connu une illustration particulière en sources chrétiennes, puisque trois volumes lui ont été consacrés par Jacques Fontaine en 1967-1969. Je crois qu'aujourd'hui, je parle sous le contrôle du directeur de la collection, il ne serait pas possible de dédier trois volumes à une œuvre, à vrai dire, de taille réduite, cela. Je pense que l'éditeur n'accepterait pas, mais enfin, on a un commentaire extrêmement ample qui fait autorité de Jacques Fontaine. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte, relativement court, a une fortune extraordinaire. Pourquoi? En grande partie grâce au contact personnel de son auteur. Sulpice Sévère appartient à la grande aristocratie gauloise, et voilà qu'il a un ami, un correspondant, qui est lui aussi originaire d'Aquitaine et qui s'est établi par dévotion en Italie, juste à côté de Naples, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Naples, à Nol. Nol, fameuse, les spécialistes de lettres classiques le savent, puisque Auguste, l'empereur Auguste, y est mort. Et à Nol, il se trouve que ce Paulin, qu'on appelle Paulin de Nol, s'est établi après avoir exercé la fonction de gouverneur de la région, et puis, comme un certain nombre d'aristocrates chrétiens de l'époque, il opère ce choix radical de l'ascétisme, et avec son épouse Thérasia, après la mort d'un fils, il s'est établi en 394 à Nol, ou en tous les cas, juste à côté, dans le faubourg de Nol, où il y a la tombe d'un confesseur qui s'appelle Félix, un nom très commun. Et là, ce Paulin de Nol va construire, il y a déjà des constructions qui ont été entreprises pour mettre en valeur la tombe de Félix, va lancer un énorme programme de construction. Et je le signale au présent, c'est un des sites archéologiques les plus intéressants qui soient pour l'Antiquité chrétienne, car vous avez là un complexe de bâtiments extraordinairement bien conservé, qui maintenant est très bien exploré par un collègue et ami italien, Carlo Ebanista, qui est un site UNESCO. Et donc, si vous allez à Naples, c'est une visite obligatoire si vous vous intéressez aux antiquités chrétiennes. Or, ce Paulin de Nol, donc, qui s'occupe beaucoup de son propre saint, est en relation étroite avec Sulpice Sévère. Et nous possédons une correspondance entre Sulpice Sévère et Paulin de Nol. ce qui était conservé, ce sont essentiellement les lettres de Paulin. Et ce qui transparaît de cette correspondance, c'est que, à peine la vie de Martin terminée par Sulpice Sévère envoie une copie à Nol. Et c'est le début, même si on en sert que là, c'est un canal privilégié de transmission, mais c'est le début d'une fortune extraordinaire de cette vie de Martin. Et Sulpice Sévère lui-même réédite sa campagne martinienne quelques années à peine après avoir achevé la vie de Martin par un ouvrage en deux puis trois livres, les dialogues, ce qu'on appelle les dialogues de Sulpice Sévère, qui est un complément à la vie de Martin et qui là encore bénéficie d'un volume de Sources chrétiennes sous la plume de Jacques Fontaine, le numéro 510. Et alors, dans ces dialogues, le ton est donné dès le premier livre, puisque l'un des héros de ces dialogues est un voyageur gaulois qui s'appelle Postumien, qui fait un grand tour depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Égypte et puis qui revient, et lui-même explique que pour ce qui touche Martin, le livre a pénétré à peu près le monde entier. Et il n'est pas d'endroit où on ne connaisse par cœur la matière universellement répandue d'un récit aussi riche. Le premier qu'il a introduit dans la ville de Rome est Paulin, donc le Paulin de Nol dont je viens de parler, un homme entièrement à ta dévotion. Puis, comme l'on s'arrachait ton ouvrage à l'envi par toute la ville, j'ai vu les marchands de livres exulter de ce que rien n'était venu par eux pour plus lucratif, car aucun ne se vendait plus vite ni plus cher. Ayant devancé de bien loin le cours de ma traversée, ce livre, à mon arrivée en Afrique, était déjà lu dans tout Carthage. Le seul à ne pas le posséder, le prêtre de Cyrénaïque, un endroit un peu désert sur la côte de la Libye, côte orientale de la Libye actuelle, mais ma générosité lui permit d'en faire une copie. Que dire d'Alexandrie où presque tout le monde le connaît mieux que toi? Il est passé par l'Égypte, la Nitrie, la Thébaïde et tous les royaumes de Memphis. Ce livre, j'ai vu de mes yeux qu'un ancien le lisait dans le désert, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est de la propagande, mais ça dit bien à la fois quelle était l'intention de l'auteur, Sulpice Sévère, et quelle est l'importance qu'il accorde à la diffusion de ce livre. Et très probablement, en tous les cas, en Italie, le renom de Martin est passé par la diffusion de ce livre de la vie de Martin de Tours. Et ça a permis que le nom de cet évêque, qui a eu certes quelques illustrations sans doute, mais enfin, il n'était pas forcément promu à une célébrité extraordinaire, non seulement traverse les siècles, mais traverse d'abord les frontières. Et l'on pourrait suivre, ça est arrivé de le faire, comment par exemple en Italie, le renom de Martin est continuellement, via le relais qu'a représenté Paulin de Nol, puis ensuite via une évocation de la mort de Paulin de Nol, etc., a pris racine et est devenu un saint si important que, si vous allez à Ravenne, Santa Apollinare Nuovo, voilà, l'église, une des grandes églises qui se trouve dans le centre de Ravenne, vous avez deux théories, deux processions, l'une de vierge, l'autre de martyr, et le saint qui ouvre la procession des martyrs est Martin. Il y avait peut-être, les archéologues en discutent, un saint qui le précédait, peu importe, mais au VIe siècle, dans les troisième quart du VIe siècle, il est à Ravenne. Mais alors, revenons donc à Tours. À Tours, à partir du, donc après cette période un peu de délaissement, Martin revient en force à partir du milieu, grosso modo, du 5e siècle, avec un évêque, Perpétuus, qui fait de grands travaux autour de la tombe de Martin. Et ces travaux sont accompagnés par une réécriture de la vie de Martin, qu'avait écrite Sulpice Sévère. Cette réécriture étant due à Paulin de Périgueux, qui écrit en six chants, en six livres, 3600 vers sur la vie de Martin. Les trois premiers livres étant une réécriture de la vie de Sulpice, les deux suivants des dialogues, et le troisième, enfin, aboutissant à quelque chose de neuf avec des miracles de Martin. Et là encore, vous pouvez lire le début de cette œuvre, je présume que la suite viendra, sous la plume de Sylvie Labarre, c'est le numéro 581, en source chrétienne. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un livre qui est spécialement destiné aux miracles opérés posthumement, posthume, par Martin. Quand on lit la vie de Sulpice Sévère, il y a déjà des miracles opérés de son vivant par Martin. Et dans les dialogues, il y en a encore d'autres, un peu posthumes. Mais la renommée de thaumaturge de Martin grandit encore un siècle. J'ai dit que la renommée de Martin s'était diffusée considérablement en Italie, particulièrement dans le nord, le nord-est de l'Italie. Et voilà que quelqu'un qui vient de la région de Valdobbiadene, c'est-à-dire les collines qui se trouvent au nord-est de Venise, où l'on produit le Prosecco et le Cartis, venant Sfortuna, décide de venir parce qu'il a entendu parler de Martin, parce que il dit avoir été l'objet d'une guérison par Martin en regardant une image de Martin, en particulier à Ravenne, il vient s'établir à Poitiers et en 575, il rédige une vie de Martin que vous pouvez lire. Alors, partage du monde dont je n'ai pas compris les arcanes entre les sources chrétiennes et la collection Budé fait que Venant Sfortuna, la vie de Martin est publiée aux belles lettres par Florence Quesnel. Donc, vous pouvez lire ce texte. C'est le moment où Grégoire lui-même, Grégoire de Tours, est en train de s'atteler à la rédaction de cet ouvrage, De Virtutibus Sancti Martini, les miracles de Saint Martin. Et où Venant Sfortuna lui a proposé la chose simple de mettre en vers ce que lui avait écrit en prose. Finalement, Martin n'a pas, Grégoire de Tours n'a pas donné suite. Et donc, Grégoire, à peine élu évêque de Tours, se met à rédiger, avec l'idée sans doute d'en faire deux livres d'abord, un recueil des miracles de Martin de Tours. Le premier livre qui comporte 40 chapitres, et la division est voulue clairement par l'auteur, porte sur des miracles antérieurs à l'arrivée comme à Tours de Grégoire comme évêque. Et le livre 2, qui comporte 60 chapitres, aux miracles intervenus depuis que Grégoire est évêque. Et ceci est rédigé à peu près entre 573 et 581. Puis viendra s'ajouter un troisième livre, le miracle, entre 581 et 588. Puis enfin un quatrième livre qui mène jusqu'à 594. Si Grégoire avait vécu un peu plus longtemps, il aurait pu en rajouter un cinquième. Le quatrième livre s'interrompt de façon un peu bizarre après 45 chapitres. On a l'impression que Grégoire est obligé de s'arrêter, même si Luspietri le souligne dans son introduction. Grégoire faisant un peu la mise en ordre, le toilettage de ses œuvres quelques mois, peut-être une année avant sa mort, considère que dans l'état dans lequel se trouve le quatrième livre, son œuvre peut être présentée comme complète avec 8 livres donc de miracles. Alors, pourquoi est-ce que Grégoire de Tours s'intéresse autant à Martin? Bon, il s'y intéresse parce que c'est le saint principal de la ville dont il est évêque et que, à l'époque à laquelle nous nous trouvons, donc le dernier tiers du VIe siècle, pour un évêque, avoir disons un saint vénéré de cette importance est une chose qui mérite toute son attention. Mais il le fait aussi pour des raisons personnelles. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une dimension tout à fait autobiographique dans les miracles de Saint Martin. S'il le fait, c'est parce que lui-même considère avoir bénéficié des grâces, des miracles accomplis par Martin. Je vous lis au premier livre le récit l'évocation, disons, que fait Grégoire du premier miracle dont il a bénéficié, lui, de la part, ou qu'il considère qu'il a bénéficié de la part de Martin. Or donc, après avoir rendu compte de ce qui s'est passé pour d'autres, j'en viens à ce que le pouvoir de ce patron, cette époque, ça fait déjà 2 siècles que un saint peut être qualifié de patronus, de patron. Peter Brown avait écrit de belles pages après Anna Maria Orselli sur ce terme, que ce patron a opéré pour moi. La 163e année après que fut monté au ciel le bienheureux évêque Martin d'une sainteté exemplaire. La 7e année de l'épiscopat de saint Euphronius à la tête de l'église de Tours. La 2e année du très glorieux roi Sigebert. Luspietri montre l'incohérence de des parallèles chronologiques. Peu importe, on est en 563. Je tombais malade. Souffrant de pustules malignes et de fièvre, si vous parcourez les miracles de saint Martin, vous trouverez souvent la mention de fièvre et de pustules, hein, de poustoulet, malais, qui désigne une éruption cutanée. Ne pouvant plus ni boire ni m'alimenter, j'en étais venu, ayant perdu tout espoir en la présente vie, à ne plus penser qu'aux mesures nécessaires à prendre pour ma sépulture. Car avec ardeur et persistance, la mort m'assiégeait, s'acharnant à expulser mon âme de mon corps. Alors que j'étais déjà à toute extrémité, après avoir invoqué le nom du bienheureux évêque Martin, je me sentis un peu mieux et au prix de pénibles efforts, je commençais à préparer mon voyage. Donc, vous imaginez que Grégoire est à ce moment-là à Clermont-Ferrand, actuellement, et qu'il veut aller jusqu'à la tombe du saint. Pour le moment, il s'est simplement adressé à lui, comme on le fait, on en a des traces au moins depuis le 3e, sinon le 2e siècle, en invoquant le nom de Martin. Si vous allez à Rome, à la catacombe de Saint-Sébastien, vous avez tout un mur avec des tas de graffitis de la deuxième moitié du 3e siècle où, alors là, il ne s'agit pas évidemment de Martin de Tours, il s'agit de Pierre et Paul, des apôtres Pierre et Paul, et vous avez des tas de graffitis qui disent Petre et Paule, abete, mente, tartempion. Donc, Pierre et Paul pensaient à X ou Y. Bon. Donc, c'est quelque chose de très ancien que l'invocation. Enfin, au 6e siècle, à la fin du 6e siècle, c'est quelque chose de tout à fait enraciné que l'invocation des saints pour obtenir tel ou tel bienfait. Et donc, il commence à préparer son voyage, car j'avais résolu dans mon âme qu'il me fallait visiter le lieu du vénérable tombeau. Et le désir qui m'animait était tel qu'il ne m'importait plus de vivre si je remettais à plus tard mon départ. Et moi, qui venais à peine d'échapper aux accès fébriles de mon mal, je fus enflammé à nouveau, mais par la fièvre de mon désir. Sans plus tarder, quoique encore bien faible, je me mis en route avec les miens. Et parvenu après 2 ou 3 étapes dans une forêt, je succombai une nouvelle fois à la fièvre et commençai à me trouver si mal que tous pensaient que j'étais sur le point de quitter cette vie. S'approchant de moi et me trouvant sans force, mes amis me disaient « Rentrons chez nous ». Et si Dieu veut te rappeler à lui, du moins tu pourras dans ta maison. Si tu en réchappes, c'est dans de meilleures conditions que tu effectueras le voyage de tes vœux. Il vaut mieux en effet retourner à la maison que mourir dans un lieu désert. Mais moi, m'étant mis, en entendant ces paroles, à éclater en sanglots et à pleurer sur mon infortune, je leur répondis par ces mots, « Je vous adjure par Dieu Tout-Puissant et par le jour du jugement redoutable pour tous les coupables, de consentir à ce que je vous demande. Ne me faites pas renoncer au voyage que nous avons entrepris. Si je mérite de voir la basilique de Saint-Martin, Perpétus, l'évêque du milieu du 5e siècle, dont je vous ai parlé, avait établi une superbe basilique autour de la tombe sainte, j'en rendrai grâce à Dieu. Sinon, emportez mon corps inanimé pour l'y ensevelir, car je suis fermement résolu à ne pas retourner dans ma maison sans avoir mérité de me présenter à son tombeau. Alors, unis par la même émotion qui nous faisait pleurer, nous nous remettons en chemin, et avec la protection du glorieux Seigneur, c'est-à-dire de Martin pour guide, nous parvenons à sa basilique. Alors, ils arrivent à la basilique. Le 3e jour après notre arrivée, auprès de la sainte basilique, nous nous disposâmes à veiller, ce que nous fîmes. Ça, c'est très important. Les pèlerins qui vont à Tours auprès du tombeau de Martin passent des nuits en prière. Des vigiles, en quelque sorte. Au matin, après l'heure des matines, la cloche nous avait appelés. Fin du 6e siècle, il y a déjà des cloches qui sont dans les églises, en tous les cas, c'est bien attesté en Gaule. Nous retournâmes à notre logement. Là, nous reposant dans nos lits, nous dormîmes presque jusqu'à la 2e heure. À mon réveil, toute sensation d'épuisement du corps et d'amertume du cœur a disparu. Je sens que j'ai retrouvé ma santé première et tout joyeux. J'appelle à mon service mon serviteur favori, etc., etc. Donc, vous voyez, le premier miracle de Martin en faveur de Grégoire, le récit en est assez sobre. Il a une indisposition forte, il croit qu'il est au bord de la mort et il en réchappe. Déjà, il allait mieux après avoir invoqué Martin, et puis quand il est arrivé au tombeau, là, c'est définitif. Mais on a, au fil des livres, et Grégoire, on a l'impression, prend un soin particulier à ce que dans chaque livre, il y ait des récits de miracles qui le concernent lui. Alors, je vous en cite un, début du livre 3, vous verrez que les choses ont un peu évolué. Ce que j'ai éprouvé récemment, donc on est dans les années 580, au milieu des années 580, voilà le miracle que je ferai figurer en premier dans ce livre. Comme nous nous trouvions à table pour nous restaurer après un temps de jeûne, est apporté sur un plat un poisson que nous mangeons, après l'avoir béni d'un signe de croix. Une arête de ce même poisson se ficha bien malencontreusement dans ma gorge, me causant de vives douleurs, de sa pointe elle piquait mon gosier. Et la barrant de toute sa longueur, elle obstruait ma gorge elle-même. Elle m'empêchait d'émettre le son de la voix et ne permettait pas même le passage de la salive qui ordinairement s'écoule depuis le palais. Le troisième jour, comme ni en toussant, ni en crachant, je ne parvenais à l'expulser, je recourus à l'assistance qui m'était familière, c'est-à-dire à l'aide de Martin. Je me rends au tombeau, donc il y a un lieu très précis, le tombeau, me prosterne sur le pavement, et mêlant mes gémissements à un flot de larmes, j'implore l'aide du confesseur. Puis, me redressant d'un pan du voile, alors là, il fait allusion à une chose qui est bien attestée dans tout le recueil, c'est que vous avez donc le tombeau de Martin, mentalisé, ce tombeau est entouré par ce qu'il appelle un chancel, c'est-à-dire des barrières en bois, et le tombeau lui-même est recouvert par une étoffe. Et il y a aussi des étoffes qui pendent autour de la tête. Or, voilà qu'il saisit donc, un pan du voile. Je touche avec ce pan du voile ma gorge et mon gosier, puis toute ma tête. Immédiatement, j'obtins la guérison. Et avant même d'avoir franchi le seuil sacré, je ne sens plus aucune gêne. Mais qu'était devenu le méchant aiguillon, la méchante arête? Je l'ignore. Je ne le rendis pas en vomissant, ni ne le sentis être expulsé dans mes selles. La seule chose que je sache, c'est que je me trouvais si rapidement guéri qu'il me vint la passée suivante. Quelqu'un, introduisant sa main dans ma gorge, en avait extrait ce qui l'a blessé. Donc, je suis bondoré que, évidemment, ce quelqu'un, c'est Martin. Et puis, le dernier miracle qui concerne Martin, Grégoire lui-même, au livre 4, toujours au début du livre 4, tout récemment me vint une douleur au ventre. Et bien que ce mal ne provoqua pas de diarrhée, cependant il parcourait douloureusement les replis tortueux de mes intestins. Je recourus, je l'avoue, à des bains fréquents, donc il applique les techniques médicales de son temps, et me fis appliquer sur les endroits du ventre ainsi mis à la torture des cataplasmes chauds. Et le cataplasme pour très utilisé dans la médecine de ce temps. Mais rien ne réussissait à porter remède à cette affection. Le sixième jour s'était levé, ma douleur augmentait de plus en plus, lorsqu'il me revint en mémoire que peu d'années auparavant, ainsi qu'on le trouve noté dans le second livre de cet ouvrage, j'avais été guéri de cette même douleur par le pouvoir du saint, c'est-à-dire de Martin. Sans plus réfléchir, je m'approchai du lieu du tombeau et prosterné au sol, toujours le même rituel, je me répandis en prière. Puis je glissai en secret sous mon vêtement un fil des voiles suspendu là, et tracé avec ce fil le signe de la croix sur mon ventre. Aussitôt la douleur s'apaisa et je m'en allai guéri. Donc voilà à peu près les miracles dont Grégoire lui-même dit être l'objet. Et donc ce qui est très important, c'est de bien comprendre le caractère autobiographique du livre. Sur cette base, l'évêque de Tours construit le récit, car en tant qu'évêque de Tours, il est le premier à devoir être informé des miracles, je reviendrai sur ce terme, qui interviennent auprès du tombeau de Martin. Et on a au livre 3 une description de la façon dont les miracles sont recueillis et ainsi enregistrés. Que nul ne juge incroyable les faits que je rapporte, sous prétexte que les noms de tous les intéressés ne sont pas notés dans ces pages. La raison en est la suivante. Dès qu'ils ont été rendus à la santé par le saint de Dieu, par Martin, tout aussitôt, ceux qui sont miraculés s'en vont et parfois même retournent chez eux si furtivement que pour ainsi dire, nul ne les voit. Lorsque se répand le bruit que le pouvoir du bienheureux évêque, Martin, s'est manifesté, nous appelons auprès de nous les gardiens du temple. Le templum, à cette époque, ça fait au moins 2 siècles, est tout à fait courant pour désigner une église, afin qu'ils nous mettent au courant de ce qui s'est passé. Cependant, ils ne nous apprennent pas toujours les noms de personnes en question. En revanche, celles que bien souvent nous désignons nommément, c'est celles que nous avons pu voir ou que nous avons questionnées. Donc il y a tout un processus de recueil de ce qui s'est passé auprès de la tombe en termes de miracles. Et cela n'est pas nouveau. Depuis, disons, le tournant du 4e au 5e siècle, on voit que autour des tombes de saints considérés comme capables de faire des miracles, eh bien, on tient des registres de ce qui se passe. Et on en a un très bon exemple, c'est un des premiers exemples, par Augustin lui-même, dans la Cité de Dieu, au livre 22, un livre qui est moins lu sans doute que les autres. Augustin, cite l'introduction de ce passage, parle des miracles qui interviennent à Hippone, en Afrique et dans les villes alentours, en particulier depuis quand, après 415, les reliques d'Étienne, qui ont été découvertes en Palestine et qui ont immédiatement été dispersées dans tout le monde méditerranéen, arrivent dans cette zone. Et Augustin introduit les évocations de ces miracles de la façon suivante. Même aujourd'hui, il se fait des miracles au nom du Christ, soit par ses sacrements, donc plutôt par ses mystères, soit par les prières et les reliques de ses saints. Mais ils ne brillent pas du même éclat que ceux du passé, et ils n'étendent pas aussi loin qu'eux la gloire de leur renommée, somme 2 siècles avant le texte qui nous intéresse. Ceux-là, c'est-à-dire les miracles du passé, le canon des saintes lettres qui devrait être fixé en fait lire partout le récit, les gravant dans la mémoire de tous les peuples. Ceux-ci, c'est-à-dire les miracles d'aujourd'hui, en quelques lieux qu'ils se produisent, sont à peine connus de toute la ville ou des habitants du lieu, car même là, ils ne sont connus la plupart du temps que d'un très petit nombre et ignorés des autres citoyens, surtout si la ville est grande. Et quand on les raconte ailleurs et à d'autres personnes, ils ne jouissent pas d'une garantie suffisante pour être crus sans difficulté ni hésitation, bien que les narrateurs en soient des fidèles s'adressant à des fidèles. Donc voilà la situation que décrit Augustin les années... vers 420. C'est le début, en tous les cas pour cette région, où l'on commence à enregistrer méthodiquement, et on a un recueil anonyme à peu près contemporain, des miracles de Saint-Étienne qui raconte de façon très détaillée, sous forme de procès-verbal, ce qui s'est passé. Donc voilà le contexte. Alors, où est-ce que Martin fait des miracles? Il fait des miracles d'abord à son tombeau, avec tout ce système que j'ai à peine décrit, le chancel, les étoffes, etc. Bon. Mais il fait des miracles en d'autres lieux où de quelque manière il se trouve. Soit qu'il les ait fréquentés, soit que une relique, je vais revenir sur ce terme, s'y trouve. Et dans les miracles de Saint-Martin, le lieu après Tours où il y a le plus de miracles, c'est Cambes, l'endroit où il est mort, et où on montre le lit où s'est endormi Martin. Mais il y a bien d'autres endroits, beaucoup moins fréquemment cités, Ligugé, Marmoutier, tout près de Tours, sur la rive droite du fleuve, donc au nord, où il a fondé un monastère. Et par capillarité, quand on lit les miracles de Saint-Martin, on voit que partout où une relique, c'est un morceau des restes de Martin, mais ça peut être un morceau d'étoffe. Et les miracles de Saint-Martin décrivent de façon extraordinaire la production de reliques. Et la production de reliques s'effectue par le contact. Je reviendrai dans la la dernière partie sur l'anthropologie religieuse, mais il est très clair que c'est par contact. Donc tout ce qui est en contact avec la tombe sainte et les parois de la tombe sainte, voire avec les ossements, s'il y a une fenêtre qui permet d'y accéder, prend la virtus, c'est-à-dire le pouvoir, la puissance qui se trouve dans les ossements de Martin. Et par conséquent, on essaie par tous les moyens de diffuser cette présence. Donc il y a les étoffes, vous avez vu que Grégoire prenait un fil d'une étoffe, la mettait sur la partie qui était malade et que cela opérait, mais il y a des méthodes plus simples. Par exemple, l'eau avec laquelle on lave le tombeau est recueillie et ingérée, sert à opérer, à transmettre la virtus de Martin. Il y a l'huile qui se trouve dans les lampes qui surplombent le tombeau, acquiert par cette proximité la puissance qui se trouve dans la tombe de Martin. Cette huile, je cite par exemple un exemple au livre 3, a des pouvoirs tout à fait extraordinaires. Il est question d'un ascète de Limoges, Arridius, et il s'est rendu à la fête du Saint. Je ne l'ai pas encore dit, mais il y a deux fêtes de Martin. Il y en a une le 11 novembre, dont j'ai déjà parlé, puis il y en a une en été, le 4 juillet. Donc, à son retour, donc, il emporta avec lui une petite ampoule remplie d'huile du tombeau saint, en disant « Peut-être y a-t-il sur la route quelqu'un infirme qui désire, le cœur contrit, recevoir une bénédiction venant du temple du bienheureux Martin. Or, en un certain lieu, une femme pieuse l'aborda et lui montrant une autre ampoule d'huile, lui dit « Je te prie, serviteur du Christ, de sanctifier cette huile par ta bénédiction. » Mais lui, pour ne pas paraître sujet à la vanité, répondit « Mon pouvoir est infime, mais si cela te convient, j'ai de l'huile du tombeau du bienheureux Martin, dont une goutte peut être versée dans ton huile. Si tu crois en son immense pouvoir, tu y puiseras la santé. » Alors, rempli de joie, elle demanda au prêtre de faire ce dont il parlait. Or, son ampoule était seulement à moitié pleine. Mais quand un peu du liquide qui avait été recueilli à la basilique du Saint eut été versé, aussitôt l'huile entra en ébullition, remplit l'ampoule jusqu'en haut. Quand elle vit cela, la dame, émerveillée du pouvoir du bienheureux confesseur, c'est-à-dire Martin, retourna chez elle, pleine de joie. Donc, voyez, ainsi commence ça marche. Et on peut donc ainsi transporter sur soi des reliques. Grégoire lui-même explique qu'en voyage à Reims, il a pris, à tout hasard, en cas de nécessité, des reliques de contact de Martin et voilà ce qu'il dit. Donc, le lendemain qui était il se trouve à Reims, le lendemain qui était le jour du Seigneur, donc le dimanche, dès l'aube, nous gagnâmes l'église, où, assis dans la sacristie, nous attendions la venue de l'évêque. À cette époque, je portais sur moi, bien que ce fût une initiative téméraire, des reliques de Saint-Martin. Donc, Sigaud, référendaire de feu le roi Sigebert, donc un dignitaire, vient alors à notre rencontre. Après l'avoir embrassé, je l'invite à s'asseoir auprès de moi. Lui, cependant, avait l'une de ses oreilles bouchées, et avec l'autre, il réussissait à peine à saisir ce que nous lui disions. Mais nous avions pu suffisamment nous entretenir lorsqu'il a appelé dans la maison de l'Église, c'est-à-dire les dépendances de l'Église. Or donc, dès qu'il m'eut quitté, voici que se désagrégea le bouchon qui était à l'origine de la surdité de son oreille. Il sentit comme un grand vent en sortir et il récupéra l'audition. Revenant aussitôt auprès de moi, il se mit à me rendre grâce. Il y avait déjà 3 jours que j'avais perdu l'audition dans cette oreille, mais comme je parlais avec toi, j'ai senti celle-ci s'ouvrir brusquement. Alors moi, tout confus, je lui dis qu'il ne fallait pas qu'on attribuait le mérite. Ce n'est pas à moi, à mon très doux fils, qu'il faut en quelque façon rendre grâce, mais à celui dont le pouvoir t'a rendu l'audition. Car sache-le, j'ai avec moi des reliques du bienheureux Martin, et c'est par leur vertu que la paresse de ton oreille a disparu. Alors, on peut aussi avoir la cire. Il y a des cierges. On récupère la cire, on la gratte, et cette cire appliquée opère des miracles. Alors, vous avez compris qu'une bonne partie de ces miracles sont des miracles de guérison. Ceux que j'ai cités sont des guérisons d'affections qui paraissent relativement bénignes. Mais quand on lit la totalité du recueil, ce ne sont pas des affections bénignes, la plupart des cas. Ce sont des gens qui sont affectés de paralysie de différentes sortes. Alors, Grégoire a une très grande affection pour des formes de paralysie extraordinaires. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre du point de vue médical, mais ce sont des gens qui ont les mains qui sont recroquevillées, les ongles rentrent dans la paume, ça sort, ça saigne, ça s'infecte, ça donne de la gangrène. Et par ailleurs, ils ont les pieds qui se relèvent et qui vont jusqu'à leur postérieur et ils restent ainsi comme ça bloqués. Et quand ils viennent à la tombe de Martin, ou qu'ils sont mis en contact avec une de ces reliques dont j'ai parlé, eh bien, les choses se remettent et ils en sont libérés. Il y a aussi, donc, tous ces paralytiques, tous ces boiteux, tous ces infirmes sont très nombreux. Et j'ai essayé de trouver des parallèles à cette description de ce que Grégoire appelle contractus, quelqu'un qui est contractus ou une femme qui est contracta, on ne trouve pas beaucoup. Il y a aussi toutes les maladies des yeux. Il y a énormément d'aveugles. Alors, certaines fois, Grégoire explique tout simplement que la personne est devenue aveugle parce qu'il y avait un fort vent qui soufflait et une brindille, une paille est venue dans l'œil et hop, l'a aveuglé. Mais il y a énormément de cas de gens qui sont aveugle-nés, etc., qui sont ainsi guéris. Il y a les sourds-muets. Il y a tous ceux qui ont des éruptions cutanées. Vous avez vu Grégoire avec ses pustules. Il y a des pustules absolument partout dans les miracles de Saint-Martin, etc., etc. Donc, une très grande variété de miracles de guérison. Mais il y a des miracles qui concernent des humains. Luce Pietri a étudié, et elle renvoie à ses études précédentes dans la préface du volume, a étudié très précisément la typologie, la sociographie, on peut parler de sociologie, mais la sociographie des gens qui sont ainsi guéris. Et ils sont aussi bien des hommes, des femmes, des enfants. Ils peuvent être très riches, ils peuvent être très pauvres, ils peuvent exercer toutes les professions possibles, ça peut être des clercs, ça peut être des laïcs. Bref, toute la société, pratiquement, y passe. Et il est difficile de faire des statistiques parce que Grégoire, surtout dans le livre 4, on a l'impression dans le livre 4 qu'il est un peu fatigué. Donc, il note par jour tant d'aveugles, tant de paralytiques, tant de ce qu'il appelle, c'est une catégorie que je n'ai pas encore évoquée, les énergumènes, c'est-à-dire les possédés, ont été guéris. Puis passe à autre chose. Donc là, on a l'impression que c'est vraiment le registre qui est ainsi mis à contribution. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles de guérison qui touchent les humains. Mais il y a aussi, je ne résiste pas au plaisir de vous lire, il y a aussi les animaux. Il y a quelques cas qui concernent les animaux qui sont victimes d'épizootie. Et par exemple, au livre 3, ce miracle. Il y a un certain temps, une terrible épidémie ravageait à tel point les troupeaux que, pensait-on, il ne resterait plus aucune bête pour la reproduction de l'espèce. Si vous lisez les lettres de Grégoire le Grand, qui sont en cours de publication en Source chrétienne, vous verrez que Grégoire passe son temps, ou en tout cas sa chancellerie, à s'occuper de savoir quand est-ce qu'il faut faire procréer les troupeaux, etc. C'est tout à fait important. Et l'église de Tours est très riche. Elle a des domaines partout, donc c'est pas important. L'un des nôtres se rendit à la Sainte Basilique et recueillit dans un vase de l'huile ainsi que de l'eau prélevée sur les lampes suspendues au plafond. Après l'avoir transporté dans sa maison, aux bêtes pardon, que le mal n'avait pas encore atteinte, de son doigt trempé dans ce liquide, il trace sur le poitrail et le dos le signe de la croix du Seigneur. Alors c'est intéressant parce que dans un certain nombre de cas, c'est pas absolument pas systématique, mais il y a une médiation de la virtus contenue dans l'huile ou dans l'eau par le signe de croix, c'est-à-dire le recours à ce qui est, je ne dis pas depuis les origines, mais quasi, le moyen le plus élémentaire et le plus anciennement attesté d'opérer une guérison. Aux animaux tombés à terre et couchés sur le dos, avec une foi sans faille, ils versent dans la gueule un peu de cette émulsion. Alors, plus vite qu'il n'en faut pour le dire, ce pléau mystérieux fut chassé et les troupeaux sauvés. Et un autre miracle qui concerne des animaux, qui est tout à fait intéressant, et qui concerne la région de Bordeaux. Il y a un mâle qui frappait durement les chevaux au domaine de Marsas, qui, situé dans ce territoire, fait partie des possessions du bienheureux Martin. Il y a un oratoire consacré par le nom et les miracles de ce dernier. Donc, quand ladite épidémie survint, les gens se rendaient à cet oratoire et faisaient en faveur des propriétaires de chevaux vœux, ils faisaient vœux, que si les bêtes en réchappaient, ils feraient don de la dîme à ce lieu même. Et afin que cette cause tournât à leur avantage, par surcroît, ils marquèrent les chevaux de l'empreinte de la clé en fer avec laquelle on fermait la porte de l'oratoire dédiée à Martin. Quand cela fut fait, le pouvoir du saint fut d'une telle efficacité que ceux d'entre eux tombés malades guérirent, et ceux jusqu'alors épargnés ne souffrirent nullement par la suite. Et puis à côté donc de ces miracles de guérison qui concernent surtout les humains et un peu les animaux, il y a tout un tas d'autres miracles. Il y a des miracles de libération. Par exemple, des prisonniers dont les chaînes tombent après avoir invoqué Martin. Et il y en a beaucoup. Il y a des miracles qui concernent des gens qui sont en voyage, par exemple, qui sont sur un bateau, sur la Loire, le vent se lève, une tempête, ils invoquent Martin, ou ils ont sur eux des reliques de Martin, et la tempête s'apaise, etc., etc. Quand on regarde la typologie de ces miracles, pas grand-chose de très neuf. Il n'y a pas, à part peut-être certaines formes de maladies un peu bizarres, comme ces contractures extraordinaires. Pour le reste, ce sont des miracles qui sont bien attestés par ailleurs à cette date. Alors, je voudrais en venir à quelques considérations d'anthropologie religieuse. Je vous laisse le soin de. J'espère que ces lectures vous ont fasciné et donc je vous laisse le soin de continuer. Cette abondance de manifestations de puissance pose un certain nombre de problèmes. D'abord, l'articulation entre ce type de manifestation du saint par la proximité avec son tombeau et les reliques de contact qui en sont issues et d'autres manifestations plus anciennement attestés que sont les manifestations par l'apparition en rêve, les songes ou les visions. Et ce qui est intéressant dans les miracles de Saint-Martin, c'est qu'il y a au moins 5, j'en ai compté, apparitions de Martin en rêve. Et que les apparitions de Martin font preuve d'un polymorphisme extraordinaire. Martin apparaît sous des figures différentes. Tantôt il est vêtu en militaire, donc il porte un manteau rouge, la chlamyde des militaires. Tantôt il porte un vêtement épiscopal. Tantôt il porte un vêtement d'ascète. Et il y a alors, les rêves dans le christianisme, contrairement à ce qu'on dit souvent, les chrétiens n'étaient pas hostiles aux rêves. Il n'y a pas parce qu'il y a deux ou trois intellectuels qui ont dit que c'était très mal, que tout le monde pensait que c'était ainsi. Non, comme tous les gens de l'Antiquité, les chrétiens rêvent abondamment, surabondamment, et considèrent que le rêve est un moyen essentiel pour entrer en relation avec la sphère divine et ce qui est apparenté, donc en particulier les saints. Je rappelle que Tertullien, déjà, donc nous sommes au tout début du IIIe siècle, dans le De Anima, explique que qui n'a pas rêvé un jour en voyant, donc quel chrétien n'a pas rêvé est ainsi entré en communication avec le divin. Donc Martin apparaît en rêve et parfois, ce rêve aboutit à une guérison, parfois il est couplé avec les méthodes que j'ai dites liées aux reliques. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans la vie, dans les miracles de Martin, il y a un thème qui revient obstinément, c'est la mise en concurrence de Martin et de son pouvoir, d'abord avec la science des médecins. Et c'est un thème absolument classique que et on le voit par Grégoire lui-même, on va d'abord voir le médecin, on essaie, vous avez entendu le passage concernant Grégoire lui-même, les cataplasmes, les saignées, ça ne marche pas, et à ce moment-là, on recourt au saint, et le saint, lui, guérit. Et ça, c'est quelque chose qui court tout au fil des miracles, et qui est absolument traditionnel. Autre pôle de concurrence, ça apparaît moins souvent, mais il y en a quelques traces. Le recours par les populations à ce que Grégoire appelle, selon une appellation tout à fait reçue, les ligaturés, c'est-à-dire les ligatures, ce que traditionnellement on appelle les pratiques magiques, qui sont extrêmement diffuses, contre lesquelles les évêques passent leur temps à se battre, lisez Augustin, les sermons d'Augustin s'en étaient remplis, et les incantations. Alors on voit bien que c'est aussi une autre possibilité, avoir recours à ces techniques pour se débarrasser en particulier du mal qui vous frappe. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, pardon, de manière beaucoup plus atténuée, beaucoup plus discrète dans les miracles de Saint-Martin que la concurrence avec les médecins. Et puis, il y a la concurrence entre saints. On a au livre 4 un exemple de cette concurrence entre les saints pour savoir quel est le plus efficace. Grégoire raconte ceci, dans le domaine de Ternay, qui se trouve dans le territoire du Mans, et qui compte maintenant au nombre des possessions de cette sainte basilique, il y avait une femme qui, depuis longtemps emprisonnée dans la cécité, fléchissait sous le poids des ans. Elle s'était établie auprès de l'oratoire du domaine, en demandant l'aumône et en invoquant assidûment le nom de Martin. Lors d'une nuit consacrée au Seigneur, donc probablement la nuit du samedi au dimanche, où elle s'était prosternée devant le saint autel, elle se mit à souffrir de forts picotements aux yeux. Du sang jaillit de ceux-ci, elle retrouva la vue. Alors ça, c'est une séquence de guérison qui revient très fréquemment dans les miracles, c'est-à-dire que pour les cécités, il y a quelque chose qui sort des yeux et qui signifie l'expulsion de la maladie. Or, et c'est ce qui m'intéresse ici, en ce même lieu sont conservées des reliques des très bienheureux apôtres, c'est-à-dire de Pierre et de Paul. Elle cependant, donc la femme qui a été guérie, affirmait avoir été guérie par le pouvoir du Saint-Évêque. Donc, concurrence. Et le commentaire de Grégoire est intéressant. Mais en vérité, notre foi nous assure qu'au travers des miracles des nombreux saints, opère le seul Seigneur et qu'il ne faut pas distinguer les uns des autres dans leur pouvoir, ce que le Seigneur, les tenant pour pairs dans le ciel, rend égaux sur terre par ses prodiges. Et vous voyez ici la rationalisation théologique qu'opère Grégoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de doute. Mais le doute est exprimé par une figure extérieure à la communauté chrétienne. Et au livre 3, toujours, une histoire manifeste la présence d'un incrédule. Voici ce texte. Voilà. Un prêtre de la ville de Bordeaux, Lupus, était il y a un certain temps gravement tourmenté par une fièvre carte, au point de ne pouvoir prendre, durant ses accès, ni nourriture ni boisson. Sur ces entrefaites arriva la fête du Saint-Évêque Martin. Or, lui, donc le prêtre, après avoir célébré les vigiles avec les autres clercs au matin, il les précède tous dans sa hâte à gagner la basilique du Saint. Alors qu'il pressait ainsi le pas, il rencontra un juif qui lui demanda où il se rendait. Il lui répondait « J'ai été pris de la fièvre carte et présentement je me hâte d'aller à la basilique du Saint afin que par son pouvoir il me délivre de ce mal. » L'autre, donc le juif, lui dit, Martin ne te sera d'aucune utilité, car recouvert de terre, il est devenu lui-même du terreau. Et c'est donc en vain que toi, tu te rends dans son temple. En effet, un mort ne saurait apporter un remède à des vivants. Mais lui, méprisant les paroles de l'antique serpent, reprit sa route et prosterné devant les saintes reliques, il se répandit en prière et il trouva là deux petites chandelles faites de cire et de papyrus. Les ayant prises, il les emporte dans sa maison et après les avoir allumées, il but les cendres de papyrus diluées dans de l'eau pure. Bientôt, il recouvra la santé. Quant au juif, saisi de la même infirmité, il en fut agité pendant une année entière, mais son esprit inique ne put jamais être changé par ses tourments. Donc ici, vous avez une figure qui remet en cause le pouvoir du saint. Ce qui est très classique, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un chrétien. Au tournant du 4e au 5e siècle, vous avez un prêtre de Saint-Bertrand de Comminges, Vigilantius, qui a écrit tout un traité pour expliquer que ces pratiques que je viens de, qui étaient, disons, qui se mettaient en place, étaient des pratiques païennes. On a perdu, hélas, le texte de ce prêtre, Vigilantius, mais on procède sa réfutation par Jérôme. Saint Jérôme. Et donc, on sait ce qu'il en est. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on ne voit pas l'incrédulité, et c'est sans doute à dessein, provenant de la bouche même d'un chrétien. Alors, je voudrais terminer par une considération générale. Je crois que j'ai parlé beaucoup trop longtemps sur ce que révèle ce régime de sacralité que l'on voit à l'œuvre dans les miracles de Saint-Martin. La première chose à dire, c'est que on a en quelque sorte, dans les miracles de Saint-Martin, un régime de croisière. On est 2 siècles, au moins 2 siècles, grosso modo, après l'apparition de ce type de comportement. collègue et ami polonais, Robert Wiśniewski, a publié il y a 3 ans un livre en anglais sur les commencements du culte des reliques. Alors, bizarrement, il n'utilise absolument pas les miracles de Saint-Martin, ce qui est dommage, mais ce qu'il montre, c'est qu'en tous les cas, dans la deuxième moitié du IVe siècle, on a, sinon la mise en place, ça peut être discuté, mais en tous les cas, l'affirmation massive de ce régime de sacralité où les tombes des martyrs ou des saints, les reliques, jouent un rôle essentiel dans, disons, les manifestations de puissance assignées au saint et au-delà de lui, dans la, disons, dans la rationalisation de certains clercs, à Dieu. Première chose. La deuxième chose, c'est que, vous le voyez, on s'est beaucoup interrogé. Le juif dit que c'est pas possible. Je citais Vigilance qui dit que ce sont des pratiques païennes. Dans l'historiographie, depuis au moins le XVIe siècle, et les controverses entre partisans de l'Église romaine et adversaires de l'Église romaine, évidemment, ces pratiques qui étaient encouragées par l'Église romaine ont été dénoncées comme des concessions à un héritage païen. Ce qui est intéressant, c'est que autant pour ce qui concerne les rêves, on peut considérer que ce sont des manifestations qui répondent à une anthropologie tout à fait, enfin, avec une certaine continuité par rapport à ce qui n'est pas chrétien, ce qui précède et ce qui est contemporain et qui n'est pas chrétien. Autant, et Wiśniewski le souligne avec raison, autant pour ces pratiques de reliques de contact, de raclage de la poussière qui se trouve sur la tombe, d'absorption de la poussière dans de l'eau, et dans certains cas dans du vin, d'huile, etc. On a non seulement on n'a pas de continuité, mais on n'a pratiquement pas de parallèle avec le monde non chrétien. Et contrairement à ce que des auteurs fameux ont pu écrire, Ernst Lucius, professeur de faculté de théologie protestante de Strasbourg, dans les années 1900, ou Pierre Saint-Yves, etc., qui faisaient des saints les successeurs des héros, sinon des dieux. Dans ces pratiques, telles qu'on les a ici, et telles qu'elles se mettent en place dans la deuxième moitié, enfin qu'elles s'affirment, disons, dans la deuxième moitié du IVe siècle, on a beaucoup de mal à percevoir une continuité, et surtout des précédents. Donc ça serait, je ne dis pas une invention chrétienne, mais en tout cas, il y aurait beaucoup d'inventions en terre chrétienne dans ces pratiques. Et la troisième chose, c'est que c'est un moment décisif pour l'anthropologie religieuse en régime chrétien, parce que ces pratiques durent pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Je terminerai, puisque Grégoire parle d'autobiographie, je terminerai par deux souvenirs. Si vous allez à Padoue, Saint-Antoine, la grande basilique, alors, énorme, et à l'intérieur, vous avez un tombeau très monumental. Si vous observez bien ce qui se passe, vous avez non seulement les dévots qui mettent des petits billets avec leurs demandes dans les interstices de la grille, mais vous observerez que les gens se frottent l'échine contre la grille, et se frottent l'échine pour recueillir la vertu. Et le deuxième souvenir, c'est... Je pense que c'était sous le pontificat de Joseph Ratzinger, de Benoît XVI. Il avait fait venir à Rome les reliques présumées de saint Augustin, qui se trouve à Pavia, à San Pietro in Celdo, qui était très dévot. Et je me souviens très bien avoir assisté à l'arrivée de ces reliques à l'église Sant'Agostino in Campo Marzio, qui se trouve juste à côté de la place Navone. Et alors les reliques entrent en procession et on les installe dans une des nefs latérales, dans une des absides, enfin près du maître-autel, mais en contrebas, une grande table, l'urne dessus, bon, et on voyait donc ce qui était attribué à Augustin et ce qui en restait. Et après la messe, les fidèles sont invités à aller vénérer les reliques. Et là, les reliques étaient séparées du bon peuple par un cordon, équivalent du chancel, et une sœur, une religieuse, franchit le cordon et se met à jouer le rôle d'intermédiaire entre les fidèles et la relique. Donc elle prend des chapelets, elle prend des mouchoirs, elle prend des sachets et les posait sur l'urne et puis les retirait. Alors elle les laissait plus ou moins longtemps et c'était fascinant parce que c'est encore ce type d'anthropologie. qui j'avais peut-être en train de disparaître, mais en tous les cas qui se conserve dans certains endroits jusqu'à aujourd'hui. Et donc la période, et c'est pour ça que je termine là-dessus, c'est pour ça que ces miracles de Saint-Martin, c'est une des raisons pour lesquelles, indépendamment de Grégoire de Tours, indépendamment de Martin, ces miracles sont si importants, c'est parce qu'ils témoignent, et de manière extrêmement abondante, documentée. Il n'y a aucun autre ouvrage de Grégoire ne contient une telle saturation dans l'évocation de ces pratiques de rapport avec le sacré, qui demeure pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre patience.
Un très très grand merci pour cette remarquable conférence. Avant la soirée, avec Guillaume, je lui demandais si les volumes de sources chrétiennes cette année seraient intéressants. Il me disait, il n'y a pas de volumes qui sont intéressants en soi, c'est celui qui en parle qui les rend intéressants. Là, je crois qu'il y a vraiment les deux. Donc vraiment un très grand merci. Je pense qu'on a une bonne dizaine de minutes ou un petit quart d'heure pour pouvoir poser des questions. Et puis voilà, ensuite on passera la dernière demi-heure à la présentation des autres volumes. Mais donc voilà, la parole est à ceux qui veulent. Je vais essayer d'allumer des micros dans la salle et ça marchera peut-être.
La conversion.
Il y a quelques cas. Il y a quelques cas où ça provoque la conversion, mais très majoritairement, ce sont des croyants. Mais effectivement, ça peut être un moyen.
Oui, Alban, puis après Guillaume.
Oui, à Bruxelles, moi je suis au-dessous des bollandistes dans mon bureau. Et donc ils ont toujours des masses de documents pour les procès de canonisation et donc et dont les miracles en particulier puisque c'est nécessaire aujourd'hui dans l'Église catholique romaine. Quel était finalement le statut par rapport à la sanctification, à la reconnaissance de la saint? Est-ce que c'est avant même qu'on puisse faire ces récits de miracles qu'on déclare le saint, ou est-ce que ça va contribuer, au contraire, vous nous avez dit que c'était un peu, il y avait déjà énormément de dévotion pour Saint-Martin à
Alors,
l'époque.
disons que ça y contribue, évidemment, ça se teste de la renommée, surtout de la puissance. Cela dit, si on se place par exemple au deuxième, troisième siècle, les saints de cette époque sont des martyrs, par le simple fait qu'ils ont subi, qu'ils ont été exécutés en tant que chrétiens, ils acquièrent la qualité de martyrs et ils sont inscrits au calendrier. Alors très vite, ils peuvent produire des miracles. Par exemple, Cyprien de Carthage. Cyprien de Carthage, on a une vie de Cyprien, quelques années. Ah, il meurt en 258 et la vie est située quelques années plus tard. Enfin, discutez, mais enfin bon. Mais admettons qu'elle a été écrite à pas grande distance. Et ce qu'on lit dans la vie de Cyprien, c'est que les gens trempent leurs vêtements dans le sang qui sort de la tête du martyr. Ils ont étendu leurs vêtements et ils ont gardé. Bon. Et Cyprien se retrouve dès le début du IVe siècle. Pour l'Afrique, on n'a pas de témoignage. Enfin, si on a des témoignages, bon, c'est moins clair. Mais dès les années, mettons, 330, à Rome, Cyprien a fête au calendrier. Il fait des miracles. Perpétue et Félicité. Perpétue est au calendrier à Rome à la même époque. Mais je ne suis pas sûr qu'elle fasse des miracles. On en a attesté. Et donc, après, pour les saints qui ne sont plus martyrs, mais qui sont de saints évêques, de saints ascètes, etc., ça y contribue. C'est évident. Hein. Un saint qui ne fait pas de miracles, ça n'a aucun intérêt. Hein. Aucun intérêt. Au moins, il peut intercéder. Mais enfin, il faut encore le voir. Et pour que l'intercession soit visible, il faut qu'on obtienne un résultat. Si on n'obtient aucun résultat, ça ne sert à rien.
Guillaume.
Oui, justement, à ce propos, j'ai lu le livre et ensuite je suis allé à Tours visiter la basilique. Et j'étais sans doute un homme de peu de foi, mais je me suis trouvé devant le tombeau, je m'apprêtais à recueillir la poussière comme on le faisait, comme le raconte Grégoire de Tours. Mais tel que c'est présenté dans la basilique, bah, il n'y a pas de poussière, tout est tellement net, tout est tellement... Il y a pas de voie, il y a des trucs électriques, il y a pas de lampe à huile, il y a peut-être quelques bougies quand même. Je pense qu'il y a quelques bougies. Voilà. J'ai une question, mais qui est sur la géographie en général, concernant le fait que le livre de la vie de saint est censé lui-même faire des miracles. J'ai le vague souvenir que c'est le cas de la vie de Martin, peut-être de une ou l'autre version. Est-ce que c'est vraiment un topos et que c'est un peu toutes les vies de saints ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce que ce volume de Grégoire de Tours dans la collection Sources chrétiennes fasse des miracles à son tour? Qu'il faut que je prévienne Monseigneur Jordi, archevêque de Tours, qu'il faut qu'il écrive un cinquième livre au miracle de Saint-Martin après la parution du Sources chrétiennes?
C'est possible parce que c'est un passage que tu n'as pas lu, mais ton souvenir est bon. Au livre 3, je peux lire le passage. Il y a un problème, enfin, c'est un miracle. C'est-à-dire que la vie échappe à un incendie. On est à Marmoutier. Un moine de Marmoutier gagna sur ordre de l'abbé une autre cellule afin d'y travailler. Il emporta avec lui pour le salut de son âme et l'amendement de sa conduite le livre de la vie du bienheureux évêque, le livre de Sulpice Sévère. La nuit venue, il s'étend sur un lit anciennement fait de paille, en plaçant le livre près de sa tête. Alors qu'il dormait, il lui apparut en songe, donc là on voit le système, un homme qui lui dit: ne dors pas sur cette paille qui s'est trouvée aspergée de sang. Ça, c'est le diable. Je crois pour ma part que sur celle-ci, comme cela arrive dans le monde des mortels, quelque crime avait été commis, que pour cette raison le bienheureux ne souffrait pas que le texte faisant un éloge de fumée. Les pardon, c'est pas le diable, c'est Martin lui-même. Cependant, cette première vision fut sans effet sur l'intéressé. Un second avertissement ne servit pas davantage. Mais le troisième, en le terrifiant, ébranla le moine. Quand celui-ci se leva et au point du jour se mit au travail, il ordonna à un serviteur, sans plus se souvenir du livre, d'ôter la paille du lit et de la brûler. Le serviteur, ignorant la présence du livre au milieu de la paille, se saisit de celle-ci, la jeta au dehors et mit le feu. Bien que celle-ci eût été réduite en cendres et qu'il n'en demeura plus que des résidus, le livre apparut intact. En vérité, ni la couverture, ni même une seule page n'avait été brûlée. Ainsi, la puissance divine déla-t-elle préserver l'éloge de celui qui en est en quelque sorte son disciple par excellence, etc., etc. Donc là, le livre ne fait pas de miracle, mais il échappe au feu. Et ça, on en a d'autres exemples. Ce n'est pas si fréquent, mais ça existe.
Oui.
Est-ce qu'il y a des enfants qui sont...
Oui. Des aveugles de naissance, des petits-enfants. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la durée, le temps qui coule entre le moment où la personne arrive, par exemple à Tours, au tombeau, et le moment où le miracle se produit est très variable. Alors on voit bien qu'il y a des durées privilégiées, 3 jours, ou 3 jours, il y a un miracle, ou 4 jours, bon, évidemment, on comprend pourquoi, mais ça peut durer, quelqu'un peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, en attendant désespérément le miracle, puis le miracle arrive. Oui?
Est-ce que dans ces miracles, on parle simplement de miracles ou de miracles avec foi? Parce que dans l'évangile, par exemple, c'est quand même la foi plus le contact, puisque la femme qui touche le manteau de Jésus, elle guérit, mais toujours ta foi t'a sauvée. Est-ce qu'il y a ce lien?
Oui, ça peut exister, parce que déjà, il faut vouloir venir à Tours. Mais quand des gens viennent à Tours. Mais parfois, non. Dans bien des cas, non. C'est un peu mécanique. Quelqu'un est malade, vous lui appliquez la relique par contact et ça marche. Il n'y a pas, comment dirais-je, on a l'impression que, et on le voit déjà très bien avec Augustin, il y a un effort de la part d'un certain nombre d'intellectuels chrétiens pour rationaliser ces pratiques, tendent à leur échapper, et pour les ordonner selon la vision qu'ils ont des rapports entre Dieu et les hommes, Dieu, ses envoyés et les hommes, etc., etc. Mais quand on lit ces récits, il est clair que même Grégoire, qui est un évêque et qui sait de la doctrine, c'est pas un évêque complètement inculte, ça existe, mais c'est pas le cas là. Il n'a pas le réflexe immédiatement de rationaliser le récit pour que ça soit conforme à un schéma théologique préétabli. Non, ça arrive de temps à autre. Périodiquement, il va se dire, on le voit périodiquement dans chaque livre, à un moment, il arrive un temps où il explique que c'est Dieu qui est à la source des miracles, mais comme si, bah, comme si là, on risquait de l'oublier, comme s'il fallait, comme on dit, serrer les moulons à un moment.
Oui,
oui, et vous avez mentionné les miracles dont ont bénéficié des animaux. Est-ce que c'est quelque chose propre à Martin ou il y a d'autres saints qui font aussi de miracles?
Oh, je crois que ça existe ailleurs. Oui.
Ça existe ailleurs. Oui.
Sauf erreur, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, qu'il y ait de choses qui ne se retrouvent pas ailleurs, surtout à cette époque.
Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions, sauf s'il y en a une dernière qui vous brûlait les lèvres. Moi, j'en ai juste une, et puis après... C'est, vous disiez que dans pas mal de cas, les gens vont d'abord aller pratiquer les médecines traditionnelles qu'ils ont sous la main, et puis ensuite, si ça marche pas, ben, ils pensent à aller voir le saint. Est-ce qu'ils vont plutôt le voir comme une saine attitude d'utiliser les moyens humains avant de déranger le saint? Ou est-ce que c'est plutôt un peu comme nous, avant de reconnaître un miracle à Lourdes, on fait toute une enquête médicale pour être sûr que les médecins n'y arrivent pas? Est-ce que là, il y aurait la même chose au niveau de la géographe, le désir de montrer que le miracle en est un vrai?
Il y a sans doute ça dans quelques cas, oui. En tout cas, le désir de montrer, non pas peut-être que le miracle en est un vrai, ça, même si Martin, dans la vie de Sulpice Sévère, démasque de faux miracles, moi dans un cas, non. L'objectif, c'est de montrer que la puissance du saint et donc de Dieu est supérieure à celle du médecin, qui n'use que de moyens humains. L'ordonnancement entre les deux pratiques étant en général très peu théorisé. Ce qui compte, et ce n'est pas spécifique à Grégoire de Tours, hein, c'est montrer que la puissance de Dieu est supérieure à celle des médecins et que le Christ est le médecin par excellence, le médecin par excellence, et Martin est le médecin par excellence. Et au moins deux fois dans les miracles, Grégoire parle de la thériaque, c'est-à-dire la panacée, hein, et qualifie le pouvoir de Martin de thériaque extraordinaire, excellente, etc. Il y a un passage, je pourrais le retrouver, où il y a toute une série d'énumérations qui magnifient la puissance de la médecine divine, en quelque sorte, médiatisée par le saint.
Très bien. Écoutez, encore une fois, un très grand merci. Et donc, on va inviter Guillaume Badi et Laurence Mellerin à nous rejoindre sur l'estrade. Voilà, pendant que je règle le micro, donc simplement nous sommes heureux de vous accueillir tous les deux comme directeur et directrice adjointe de l'Institut des Sources Chrétiennes. Et donc, j'en dis pas plus et je vous laisse présenter tous vos volumes et je vais partager l'écran à la fois ici et à distance.
Merci beaucoup Pierre et merci. Merci beaucoup Pierre et merci beaucoup au Centre Sèvres qui organise cette soirée exceptionnelle pour nous, auquel nous tenons beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là. Voilà, donc nous avons eu
Après Dadi Shokatraya, le commentaire du Paradis des Pères, 8 volumes cette année, en 2023. Il y a eu une période sans parution jusqu'à cet été avec le Panarion d'Épiphane de Salamine. Alors le mieux, c'est que je commence par la présentation qu'Épiphane en fait lui-même dans sa préface. Comme nous devons vous indiquer le nom des hérésies, vous révéler leurs pratiques criminelles semblables à des venins et à des poisons, on était dans le domaine de la médecine à l'instant, et adapter en même temps des antidotes qui serviront de remèdes pour ceux qui ont été mordus et de préventifs pour ceux qui sont sur le point de tomber dans ce malheur, nous rédigeons la préface que voici pour les gens qui désirent s'instruire en l'interprétant comme un panarion ou boîte à remèdes pour gens mordus par les bêtes venimeuses. Il est rédigé en 3 livres. Il contient 80 hérésies qui évoquent des bêtes malfaisantes et ou des serpents. Mais unique après les 80, c'est-à-dire les 80 courtisanes du Cantique des Cantiques, est la base de la vérité ainsi que la doctrine, l'œuvre salutaire et la sainte fiancée du Christ qu'est l'Église. Elle existe depuis toujours, puis par la venue du Christ dans la chair, elle s'est révélée dans la suite des temps au milieu des hérésies. Vous voyez un projet très clair, rédigé après 374. 374, c'est la rédaction de ce qui sert un petit peu de préambule aujourd'hui au Panarion. Et où était déjà cité un certain nombre d'hérésies par Épiphane qui écrit à la demande de prêtres. Et donc vous avez sur ces 80 hérésies 25 notices qui sont dans ce volume des sources chrétiennes dues à Aline Pourquier, qui est l'une des très rares spécialistes d'Épiphane dans le monde. Il y a une sorte de phénomène qui fait que Épiphane, c'est une source que tout le monde utilise. Tout le monde doit lire Épiphane parce que Épiphane est le seul à transmettre certains textes, est le seul à parler de certains hérétiques ou de certaines personnes de l'histoire de l'Église. Et pourtant, personne n'ose être spécialiste de celui qui était le spécialiste d'un peu toutes les hérésies. Alors, elle-même, elle a donc écrit sa thèse il y a plus de 20 ans, et elle préparait donc l'édition du Panarion, et elle a dû s'interrompre à la notice 25. Mais vous avez, grâce à ça, non seulement une introduction à Épiphane et au Panarion, mais un résumé de toutes les hérésies. C'est-à-dire que si vous n'aurez pas besoin de consulter le volume des GCS en grec sur 3 tomes pour trouver les renseignements au moins synthétiques que vous voudriez avoir sur le Panarion. Et donc c'est très utile. Et puis donc vous avez les premières hérésies, donc dans ces premières notices, qui comportent notamment les hérésies non chrétiennes. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on n'est pas hérétique. Et la première, c'est le barbarisme. Alors ici, il y a des philologues, je pense qu'ils seraient tout à fait d'accord avec Épiphane. Le barbarisme est une hérésie, mais méfiez-vous parce que autre hérésie, c'est l'hellénisme. Donc si vous êtes helléniste, eh bien sachez que vous n'êtes pas dans une meilleure situation. Bon, c'est une plaisanterie évidemment, mais vous avez des documents très importants sur l'histoire des premiers mouvements religieux. Le judaïsme fait partie des hérésies, bien sûr, les samaritains, les esséniens, et puis ensuite vous avez tous les philosophes. Et donc à la notice 25, on en est au premier gnostique. J'en viens à Clément d'Alexandrie avec une nouvelle édition du Stromate 1, dû à Bernard Poudron, des décennies après le volume 30, dû à Claude Mondésert et Marcel Caster. Depuis des décennies, en fait, beaucoup de bibliographies et d'élucidations ont pu être apportées quant à ce texte, qui est très important parce qu'il témoigne aussi à sa façon, donc là, on est bien avant Épiphane, de textes philosophiques autrement perdus. L'objet même de ce premier livre des Stromates, c'est de montrer précisément l'intérêt de la philosophie, les limites certes. Le fait que la philosophie, en fait, n'est pas première, elle s'est inspirée elle-même de la révélation juive. Donc c'est ce motif apologétique qu'on va retrouver pendant des siècles chez les chrétiens. Mais elle a une valeur quand même en soi. Et donc je cite Clément dans l'un des premiers passages du livre. De même que les cultivateurs arrosent d'abord la terre, nous aussi, nous arrosons d'abord la partie terrestre de nos lecteurs avec cette eau que constituent les lettres grecques, de façon qu'elle accueille la semence spirituelle qu'on vient d'y jeter et qu'elle puisse la faire aisément prospérer. Mes stromates renfermeront la vérité mêlée aux doctrines philosophiques, ou plutôt enveloppée et dissimulée comme la partie comestible de la noix. Alors, il l'est par la coque, oui. Car je crois que seuls les cultivateurs de la foi sont aptes à veiller sur les semences de la vérité. Donc, il y a les limites de la philosophie. Mais il ne m'échappe pas que ce que l'ignorance fait répéter à des gens, des esprits timorés, qu'il faut s'occuper de l'essentiel qui touche à la foi et négliger ce qui est extérieur et superflu, qui nous épuise en vain et nous retient sur des sujets qui ne contribuent en rien au but poursuivi. Ces gens-là pensent que la philosophie, venue du mal, s'est insinuée dans notre vie pour la ruine des hommes, inventée par quelque esprit malin. Pour ma part, que le vice possède une nature mauvaise et ne saurait jamais cultiver quoi que ce soit de bien, je le montrerai tout au long de mes stromates en faisant pour ainsi dire pressentir que la philosophie est elle aussi une œuvre de la providence divine. Il parle même de don divin, un peu plus loin dans le livre. Et dans le Stromatis, il parle d'une alliance propre qui est faite par Dieu avec les philosophes grecs. Je passe maintenant. Voilà. La parole à Laurence.
Voilà, on va faire un bond temporel puisqu'on va se retrouver à la fin du XIIIe siècle avec Gertrude d'Elfstadt. Là, il y a déjà 5 volumes de Gertrude dans la collection des sources chrétiennes qui contiennent en fait ses œuvres complètes, hein, les exercices et puis le héros de l'amour divin. Donc un livre plus de vision, de méditation. Mais il y a eu un événement qui a déclenché la parution de ce nouveau volume, c'est avec l'ouverture des frontières de l'Allemagne de l'Est, la découverte de nombreux nouveaux manuscrits de l'œuvre de Gertrude, hein, 17 en l'occurrence, dont un qui s'est révélé particulièrement précieux, qui a été découvert par la bibliothécaire de Leipzig, donc en 1997 je crois. C'est un manuscrit qui provient de l'abbaye double de Pego, qui se trouve juste à côté de Delfta, et qui a été rédigé vraisemblablement avant 1307, c'est-à-dire comme Gertrude meurt en 1301, 1302, c'est clairement le texte, enfin le manuscrit le plus proche de son écriture, de son vivant, et peut-être même un manuscrit qui a été réalisé alors qu'elle était encore là. Le facteur aussi qui a déclenché la parution de ce livre, c'est la demande de doctorat de l'Église qui est actuellement en cours pour Gertrude, qui a permis à un certain nombre de moines et de moniales cisterciens d'unir leurs efforts pour éditer ce nouveau manuscrit et puis en produire des traductions dans les différentes langues européennes. Donc là, le volume français du premier tome vient de paraître, mais il y a aussi la même entreprise en allemand, en italien, en anglais et bientôt en espagnol également. Alors ce manuscrit, donc que contient-il et quel est son intérêt nouveau, hein, par rapport à l'édition qu'on avait déjà? Alors il commence par un florilège patristique qui contient beaucoup de saint Augustin, beaucoup de Richard de Saint-Victor, beaucoup de saint Bernard ou de pseudo saint Bernard, et qui est bien dans l'esprit de la spiritualité d'Elfta et sans doute écrit par la sœur qui retranscrit les paroles de Gertrude ou par Gertrude elle-même. Ensuite on a une postface à ce florilège qui contient des éléments, là aussi qu'on retrouve dans le héros de l'amour divin dans le livre 2, peut-être dû à Gertrude, peut-être à cette sœur qui l'aide à fixer ses visions. Et ensuite, une préface qui est là clairement due à la compilatrice des œuvres de Gertrude, qui nous informe sur la genèse de l'œuvre. Et cette œuvre qui est explicitement intitulée du coup dans cette préface, ce livre doit s'appeler « Mémorial de l'abondance de la suavité divine » car ce nom lui a été imposé par l'auteur lui-même qui donne lettre à toute créature. Donc c'est le jeudi saint 1289 que Gertrude a été inspirée de mettre par écrit son expérience spirituelle et elle s'ouvre de ce désir à la Noël suivante auprès de la sœur qu'on appelle la sœur N. Et cette sœur va l'encourager, va noter en secret ses révélations. Ensuite va obtenir le soutien de l'abbesse Gertrude Ackerborn et à la mort de l'abbesse va recommencer à noter en secret sur des petits papiers les visions de Gertrude. Gertrude n'a, au dire de cette compilatrice, jamais voulu voir le résultat. Et donc après cette préface assez longue où elle explique un peu la jeunesse de l'œuvre, on a l'œuvre elle-même en deux parties. La première qui correspond à ce tome 1, qui est l'œuvre vraiment de Gertrude, qui reprend l'équivalent du livre 2 du héros de l'amour divin, mais avec des variantes, avec des épisodes inédits. Et puis une section donc qui fera l'objet du prochain tome, qui paraîtra sans doute dans un ou deux ans dans la collection, puisque sa préparation par l'auteur sœur Marie-Hélène Deloffre est quasiment terminée. Qui elle reprend donc cette partie reprend des éléments des autres livres du héros et là a été rédigée par la sœur N. Alors il y a beaucoup d'éléments communs avec le héros de l'amour divin, mais c'est pas du tout le même esprit de rédaction puisque si le héros se veut une œuvre vraiment littéraire qui est destinée à exalter la mémoire de l'abbaye d'Efta, d'en faire un monastère idéal. C'est pas du tout le propos de ce qui transparaît dans ce manuscrit qui est un peu pris sur le vif et rédigé donc un peu brut de décoffrage. C'est la vie de Gertrude un peu prise sur le vif. Alors déjà le plan est complètement chronologique alors que c'est pas le cas dans le héros. Ensuite c'est une vision beaucoup plus réaliste de la sainte. Alors elle se met en colère par exemple avec des adverbes comme acrius qui n'apparaîtront plus du tout dans le héros. Elle raconte aussi la vie quotidienne de Gertrude. Elle est dans la cuisine en train de préparer le repas et elle voit le Christ lui apparaître avec un tablier pour l'aider à préparer le repas. Enfin voilà, c'est des choses évidemment qui disparaîtront dans la version officielle. Gertrude a aussi par exemple de la difficulté à se confesser. Et ben ça aussi on en entend pas parler. Et enfin bon, je passe les exemples. Il y en a un petit peu drôle, c'est que il est question d'un défunt à la fin du héros qui a apparu à Gertrude sous l'apparence d'un crapaud, noir comme le charbon et semblant se tordre du fait de l'immensité de peines intolérables. Et là, on apprend qu'il s'agissait en fait d'un chanoine qui avait refusé de confesser les sœurs. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de publier ce manuscrit et non de refaire une édition du héros, mais de le publier séparément. Hein. C'est tout à fait une autre vision de la vie de cette sainte. Pour autant, il exprime évidemment la même théologie spirituelle, mais va mettre l'accent donc. Pour ça, si c'est ces aspects-là qui vous intéressent, il vaut mieux vous reporter à l'introduction du premier livre du héros dans Source chrétienne, puisque ces éléments n'ont pas été repris ici. Mais il y a quand même quelques points saillants qui sont mieux mis en valeur dans le manuscrit de Leipzig, en particulier tout ce qui est intériorisation liturgique. Hein, tout le Christ part à Gertrude en reprenant les textes des répons de l'office, par exemple. Puis il y a toute l'importance qu'elle accorde à l'Eucharistie, à la place du sens du goût dans son expérience spirituelle, le thème de la suppléance aussi bien pour le salut que pour le fait de rendre grâce. Hein, le Christ, la Trinité elle-même, aide les hommes à rendre grâce à Dieu parce qu'ils ne sont pas capables de le faire autant qu'il le faudrait. Bon, et puis aussi peut-être de façon plus sensible que dans le héros, l'idée que la religion de Gertrude, c'est une religion du cœur, c'est le cœur du Christ, bien sûr, marqué par la souffrance, mais c'est surtout le cœur de Gertrude elle-même qui va recevoir l'impression de ses plaies du Christ et voilà, entrer en contact avec lui par ce plus intime d'elle-même. Donc je finirai par lire ce texte rapidement. Donc le cœur est créé par Dieu pour contenir des délices, comme un vase qui contient de l'eau. Oh oui, c'est le deuxième, oui, c'est ça. Mais si le vase contenant l'eau la laisse s'écouler par de petits trous, le vase pourrait à la fin être tellement vidé qu'il resterait sec. Ainsi, le cœur humain contenant les délices spirituels, s'il les laisse s'échapper par les sens corporels, en faisant ce qui lui plaît par la vue, l'ouïe ou par les autres sens, peut le laisser s'écouler à tel point que le cœur restera vide de délices en Dieu. Au contraire, s'il décide de se maîtriser pour l'amour de Dieu, cette joie grandit seulement tellement dans son cœur que c'est à peine s'il peut la retenir.
Alors, le numéro 636, on revient à une période plus patristique avec César d'Arles et le commentaire de l'Apocalypse de Jean. Il y a très peu de commentaires anciens de l'Apocalypse et auparavant, avant Césaire, il y a Victorin, il y a Tychonius et Césaire est un témoin privilégié de ses prédécesseurs, Tychonius, son commentaire est carrément disparu, il était reconstitué en partie. Et c'est précisément Roger Grison, qui est spécialiste de ces textes, qui nous a préparé ce volume du commentaire de l'Apocalypse. Il s'agit de conférences de Césaire qui ont été prises en notes à la volée par ses auditeurs, et lui-même avait ses propres notes d'orateur, et les deux ont été mis ensemble, et pas exactement dans le bon ordre, vous voyez. Ça a donné un résultat qu'on appelle des 19 homélies, qui ne sont donc pas des homélies, et qui ne sont pas non plus dans le bon ordre. Et donc, franchement, ça fait un résultat très déroutant. Mais qui globalement permet de lire l'Apocalypse comme vous ne l'avez jamais lu. Peut-être l'une des originalités de Césaire par rapport à ses prédécesseurs, qu'il cite littéralement en très grande partie, hein, elle consiste dans ses premières lignes du commentaire. Alors attendez, non, je suis allé trop vite, voilà. Quant au contenu de l'Apocalypse de Saint Jean, frère très cher, certains des anciens pères ont pensé que l'ensemble, ou en tout cas la plus grande partie de ce texte, concernait le jour du jugement ou l'avènement de l'Antéchrist. Mais ceux qui l'ont expliqué plus attentivement ont dit que le contenu de cette révélation a commencé de se réaliser aussitôt après la passion de du Seigneur notre Sauveur et s'accomplira jusqu'au jour du jugement, de telle façon qu'une petite partie soit réservée pour l'époque de l'Antéchrist. Par conséquent, tout ce que vous entendrez lire dans ce texte, qu'il s'agisse du Fils de l'homme, ou des étoiles, ou des anges, ou des chandeliers, ou des quatre animaux, ou de l'aigle volant en plein ciel, et tout le reste, comprenez que tout cela se réalise dans le Christ et dans l'Église, et reconnaissez que tout ce qui a été annoncé la préfigure. Et il donne un exemple peu de lignes plus loin. Quand il dit « saint d'une ceinture d'or à la hauteur des saints », Apocalypse 1.13, celui qui était saint figurait le Christ Seigneur. Il faut comprendre les deux saints comme les deux testaments, qui reçoivent de la poitrine du Seigneur Sauveur, comme d'une source inépuisable, de quoi nourrir le peuple chrétien en vue de la vie éternelle. Et ensuite, il dit que c'est le rôle de l'Église de faire parvenir cette nourriture ensuite à l'ensemble du peuple. Et précisément, une autre originalité de Césaire, sans doute, c'est le caractère pastoral de ses réflexions exégétiques. Il est pas tout à fait tendre avec ses fidèles, et j'en veux pour preuve un de ses passages où il commente Apocalypse 2:28. Il est question de l'étoile du matin. Et il cite Matthieu 13:43. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il appelle étoile du matin la première résurrection qui se réalise par la grâce du baptême. L'étoile du matin chasse la nuit et annonce la lumière, c'est-à-dire qu'elle efface le péché et accorde la grâce, si du moins, une fois la grâce reçue, les bonnes œuvres suivent. Il importe peu qu'un arbre soit vivant s'il ne porte pas de fruits. De même, il ne sert à rien de s'appeler chrétien si l'on n'agit pas en chrétien. Et dans tout son commentaire, il finalement, c'est facile à dire, mais pour lui, l'Apocalypse, c'est maintenant, maintenant dans l'Église. Voilà. Donc je vous invite à voir tout ce livre décodé par Césaire à l'aide de ses prédécesseurs dans la traduction de Roger Grison. J'en viens, je repasse.
Voilà. Donc on reste là à l'époque patristique et on revient à Jérôme avec un ouvrage, enfin le chef-d'œuvre polémique de Jérôme qu'on attendait depuis plusieurs années à Source Chrétienne. Donc c'est le livre 1 uniquement, mais le livre 1 et le livre 2 du Contre-Jovinien sont très différents, donc ça peut considérer que c'est une œuvre à part entière. Alors, chef-d'œuvre polémique, d'abord vous dire qui est ce Jovinien dans la bouche de Jérôme. Alors, c'est un extrait du livre 2, mais il m'a paru important de présenter la façon dont Jérôme le voit d'emblée. Alors, crasseux et pâle, montrant des mains rendues calleuses par le travail, tu étais vêtu d'une tunique laineuse et d'une chemise noire de crasse. Tandis que maintenant, donc Jovinien est moine, mais il a un peu mal tourné, hein, voilà. Tandis que maintenant tu t'avances avec pour ornement des vêtements de lin et de soie, des toiles venues des pays atrébates et de la Odyssée. Tu as les joues rouges, la peau luisante, les cheveux frisés sur l'occiput et sur le front, ton ventre est devenu proéminent, etc. Un autre passage où il dit que non seulement il a mal tourné, mais qu'en plus il a du succès, de l'influence à Rome. Notre Épicure en chaleur dans ses petits jardins, au milieu des adolescents et des femmelettes, à la faveur des hommes gras, resplendissants, bien propres, tous les élégants, tous les frisés, ceux que je verrai les cheveux apprêtés, les joues rouges sont de ton troupeau, mieux ils grognent parmi tes pourceaux. Voilà, le ton est donné, et il y en a voilà, beaucoup de paragraphes comme ça, donc il faut s'accrocher pour entrer dans ce livre, je trouve. Et bien sûr, comme d'habitude, on a des pages et des pages de Jérôme pour réfuter Jovinien. On a quelques lignes pour connaître effectivement les écrits que Jérôme critique, dont il dit qu'ils avaient un style boursouflé absolument insupportable, mais on en a évidemment très peu d'exemples pour en juger aussi. Donc Jérôme attaque Jovinien sur son style, sur sa morale, mais aussi et surtout à cause de quatre opinions qu'il défend et qu'il estime dangereuses pour l'Église. Alors, certaines ont trait au baptême, au jeûne, au rôle de la grâce, c'est celles qui seront abordées dans le livre 2. Mais dans le livre 1, il se concentre sur une seule proposition de Jovinien, à savoir celle-ci que Jérôme juge la plus grave, puisqu'il y consacrera le plus gros de son œuvre. Jovinien dit que les vierges, les veuves et les femmes mariées, une fois purifiées dans le Christ, ont même mérite si elles ne diffèrent pas par le reste de leurs œuvres. Alors, voilà, pour nous aujourd'hui, cette proposition peut ne pas paraître absolument scandaleuse, mais il en était tout autrement pour Jérôme, évidemment, parce qu'il y voyait une mise en péril de l'idéal ascétique, de la virginité consacrée qu'il exaltait. Voilà ce que lui y voit comme attaque pour les modes de vie consacrés qu'il défend, mais ces propositions de Jovinien trouvent aussi un grand écho au IVe siècle, pas forcément pour des raisons analogues à celles d'aujourd'hui, mais tout simplement parce que on est dans un contexte de résurgence du manichéisme, de mise en danger de la dignité de la chair, qui fait l'essence même du, enfin qui en partie, mais l'essence du christianisme. Et bon nombre de chrétiens refusent ces approches païennes et suivent Jovinien parce qu'il propose quelque chose qui leur semble plus équilibré aussi. Donc on est dans un contexte très très complexe sur ces questions. Jérôme répond depuis Bethléem, hein, il a quitté Rome depuis 8 ans au moment où Jovinien écrit, donc on est autour de 393, et il répond avec une violence inouïe, comme vous avez vu quelques échantillons, mais aussi sur le plan de l'argumentation. Bon. Et il se verra lui-même reprocher son outrance. Ses amis, Domnion et Epimachus, iront jusqu'à empêcher la diffusion de son livre à Rome, de peur que Jérôme ne s'attire trop de critiques. Donc, Jovinien c'est un personnage, mais c'est aussi ce que Yves-Marie Duval a appelé une affaire. Une affaire parce que bon, il y a celle des démêlés de Jovinien avec l'Église. Il sera effectivement condamné sans doute dès 393 par le pape Cyrille. Mais c'est aussi les démêlés de Jérôme avec ceux qui lui reprochent sa violence. Donc après, Jérôme va répondre dans des lettres aux critiques qu'on fait de son ouvrage. Il va se justifier en sans en démordre. Je vous cite un passage d'une de ses lettres. Il juge le mariage égal à la virginité. Nous le jugeons inférieur. Il n'y a pas de milieu. Ou c'est mon opinion qu'il faut suivre, ou celle de Jovinien. Parmi les autres adversaires de la pensée de Jovinien, Augustin en particulier aura une position beaucoup plus nuancée en disant que le mariage peut être un bien, enfin bon, voilà, sans pour autant, bien sûr, remettre en cause l'excellence de la virginité. Donc il y avait moyen de trouver une voie plus médiane que celle de Jérôme. En tout cas, il consacre à cette idée qui lui tient vraiment à cœur un très long traité, très brillant, avec beaucoup d'argumentations bibliques, hein, c'est l'essentiel de son texte, mais aussi une argumentation païenne qui vient avec des exemples des vertus pratiquées par les femmes vierges dans l'Antiquité, qui vient appuyer ces démonstrations bibliques. Alors, c'est un texte très bien construit, si on regarde dans le détail, comme le fait Luc Savoie, l'auteur de ce volume, dans son introduction, on voit bien que tout est cohérent, que tout est ordonné à la défense de cette thèse de la supériorité de la virginité. Mais souvent, c'est un peu difficile à suivre, parce que Jérôme a à la fois une pensée très, très outrancière et le désir de se protéger des critiques qu'il sait très bien qu'il va encourir. Du coup, on va avoir des oscillations entre des pensées comme le mariage et le remariage sont tolérés pour lutter contre la débauche, mais la femme qui se remarie vaut à peine mieux qu'une courtisane, puisque simplement elle se prostitue à un seul homme au lieu de plusieurs. Voilà, on a des contrastes comme ça, donc une pensée qui en première lecture semble osciller un petit peu. Mais ce qui rend aussi la lecture un peu laborieux, c'est qu'il suit pas à pas la pensée de son adversaire et va retourner donc les arguments. Donc il faut vraiment faire attention quand on lit à savoir qui est en train de parler, s'il est en train de faire parler Jovinien, c'est pas toujours très très simple. J'en prendrai juste un exemple. Jovinien passe en revue tous les patriarches qui ont été mariés. Et Jérôme va dire oui, mais il préférait une de leurs épouses. Ou alors, enfin, et par exemple, l'exemple de Jacob. Jacob, il a peut-être plusieurs femmes, mais il préfère Rachel. Et Rachel, c'est la préfiguration de l'Église. En fait, chaque fois, Jérôme passe de l'exégèse littérale de Jovinien à une exégèse allégorique. Et c'est comme ça qu'il arrive, à partir des mêmes textes, à avoir une interprétation complètement différente. Juste un autre exemple dans le Nouveau Testament, Zacharie et Élisabeth, oui, étaient mariés, mais c'était...
Peut-être faut qu'on passe vraiment au suivant.
Parce que... Ok, l'ancienne loi. Voilà, bon, mais ça suffira.
Alors, je vais aller vite pour les deux suivants, à savoir Tertullien, la résurrection de la chair. Alors, c'est un volume très important, parce que il est dû à Paolo Siniscalco qui nous a quittés, à Madeleine Moreau qui nous avait quittés auparavant. Et heureusement, l'édition critique a été faite par un jeune collègue italien, Pietro Podolac, ainsi que l'annotation. Voilà, c'est un ouvrage absolument capital sur ce qui est peut-être le cœur de la foi chrétienne. Un plaidoyer pour la dignité de la chair et sa résurrection, dont je cite le passage le plus célèbre. Voyons à partir de la notion particulière d'identité chrétienne, je pense que le mot est bien choisi, de quelle importante prérogative jouit auprès de Dieu cette substance vile et souillée, à savoir la chair. Il suffirait de noter qu'aucune âme absolument ne peut accéder au salut si elle n'a eu la foi tant qu'elle était dans la chair, tellement la chair est le pivot du salut. Caro salutis cardo en latin. Voilà, je dois passer à...
En fait, il est effectivement 21h30 Guillaume vient de me dire que si on est jusqu'à 35, il aurait le temps de finir sa présentation. Donc voilà, vous pouvez partir si vous voulez ou tenir encore 2-3 minutes, mais à 35, promis, on arrête tout.
Voilà, merci beaucoup pour votre patience. Pour ce qui est du contre-jovinien et du commentaire sur Jean tome 2 de la Cyrille d'Alexandrie, leur parution, si je ne me trompe pas, est prévue demain. Donc voilà, c'est vraiment en avant-première que nous vous livrons cette présentation. Donc là, il s'agit de la suite du numéro 600 dû à Bernard Meunier. Vous avez un commentaire qui va jusqu'au chapitre 5 de Jean, qui est un peu plus narratif, un petit peu plus pastoral, mais aussi avec beaucoup de considérations contre les Ariens, les interprétations ariennes de Saint Jean. Alors je passe sur les invectives que j'ai projetées. J'insiste sur des trouvailles de Cyrille comme la transformation en Dieu à laquelle sont appelés les hommes, l'anamorphosis eisteon, dans un passage où il est très question de l'hymne aux Philippiens, la morphée doulou, donc la forme de l'esclave qui est prise par le Christ, lui, qui était dans la forme de Dieu. Donc ce changement de forme, eh bien l'homme est appelé à le faire dans l'autre sens. Voilà, ça fait partie des intérêts de ce dernier tome avant le numéro 3 qui est aussi en préparation, le livre 3 du commentaire. J'en viens à quelques volumes en préparation pour l'année qui vient. Vous voyez le registre des lettres, livre 10 et 11 de Grégoire le Grand, le tome 2 du Cantique de Grégoire de Nice, le tome 6 des psaumes d'Hilaire, les sermons sur l'écriture, l'Ancien Testament, la deuxième partie de Césaire d'Arles. Alors, de Grégoire de Tours, ce ne sont pas les miracles de Saint-Martin, c'est la vie de Junin de Brioude. Et à cet égard, je rends hommage à Luce Pietri parce que non seulement elle nous a envoyé ce deuxième opus de Grégoire de Tours, mais également la gloire des confesseurs qui paraîtra sans doute un peu plus tard. Donc, on devrait avoir sur cette œuvre hagiographique importante de Grégoire de Tours au moins trois œuvres d'importance par Luce Pietri. Vraiment, merci beaucoup. Je crois reconnaître ici Charles-Antoine Fogelman qui nous a envoyé l'antirétique des Vagres Lopontiques. Il y a pas moins de 8 alphabets différents dans ce volume. Jean-Chrysostome, panégyrique de martyrs, sont des femmes. La prière de Tertullien, mais aussi d'Origène. Les dorés de l'humilité, l'orgueil de Bernard de Clairvaux, écrits sur l'observance monastique de Guillaume de Saint-Thierry. Vous voyez que ça va sans doute déborder, ça va pas tout tenir en 2024. En tout cas, ça témoigne de l'intérêt que nos collaborateurs ont pour la collection. Il faut les remercier en tout premier lieu. Je remercie tous les membres de l'équipe qui travaillent. Anna Lampadarilli qui est ici, Isabelle Bruntière, Yasmine Echael, Blandine Sauvelet, Dominique Tinel, Pascal Petit, Dominique Gonnet, Bernard Meunier, Jean Reynard, j'espère que j'oublie personne. Et voilà, parce que voilà, c'est un travail d'équipe et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère à l'an prochain pour vous présenter un peu mieux qu'une liste.
Merci beaucoup Guillaume et Laurence, on peut les applaudir. Donc on a plein de bons conseils de lecture et de cadeaux pour Noël. Je sais pas si nous on a des annonces à faire côté Centre Sèvres patristique. La soirée sur le contre-Faust.
Bon, on va l'édition complète du contre-Faust d'Augustin.
Avec Jean-Daniel Gilbois, qui a contribué pour le manichéisme, avec Hugues Vermès, qui n'est pas auteur du livre, mais qui présentera l'ouvrage, et moi-même, qui ai contribué à l'introduction.
Voilà, donc rendez-vous au mois de mars ici. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus, et à bientôt.